10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi de 10h à midi sur l'antenne de Beurre FM. Avec mon équipe, Zora à la réalisation, Lou et Fodil qui m'accompagnent, les deux journalistes qui préparent l'émission avec moi. Cette semaine, une émission qui sera encore une fois au cœur de l'actualité, puisque nous allons parler de sujets qui vous touchent tous les jours dans votre vie quotidienne. Fodil, bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour Karim, ça va super bien.
En forme ?
Toujours.
Un contexte un peu tendu, j'ai l'impression.
Ah, effectivement,
hein ?
Karim.
Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Fodil ?
Eh bien, mon cher Karim, la semaine a été riche en actualités. Dans le programme des engagés, nous aurions pu retenir pour ce vendredi l'appel du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à la vigilance face à la résurgence de l'épidémie de Covid-19 en France. Nous aurions pu également aborder le sujet de l'assurance chômage adopté à l'Assemblée nationale cette semaine en première lecture. Le texte prévoit notamment la modulation des indemnités selon la conjoncture de l'emploi. Finalement, nous avons souhaité mettre l'accent sur ce qui fait le cœur de l'actualité et qui touche toute la France depuis maintenant plus de 2 semaines. Je vais parler de la grève du carburant et de la pénurie nationale dans les stations de service. Nous poserons la question à nos auditeurs suivante. Trouvez-vous cette grève légitime et normale pour favoriser une prise de conscience concernant la nécessaire augmentation des salaires en France ? Ou bien vous êtes en colère contre les grévistes et la CGT qui est le syndicat leader de ce mouvement ?
Ah oui, ça va être un sujet tendu parce que je crois que beaucoup sont partagés. Beaucoup estiment effectivement qu'il n'y a pas une juste redistribution des richesses dans notre pays. Et en même temps, comme ils sont touchés aujourd'hui avec la pénurie de carburant, pour aller bosser, pour aller voir quelqu'un de malade à l'hôpital, pour aller venir tout simplement, hein, la voiture est quand même un outil indispensable aujourd'hui, ben les gens sont en colère. Donc on va en parler, 01 53 48 3000, donc composez le numéro de téléphone de Beurre FM pour témoigner à notre antenne. Au cours de la deuxième heure, Fodil, on va aborder quel sujet ?
Eh ben, nous allons aborder un sujet très important aux yeux des Français, celui de la valeur du travail. Entre l'augmentation des prix de l'énergie et l'inflation galopante sur les besoins essentiels, les Français se serrent la ceinture dès le 10 du mois, ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Estimez-vous que le travail est suffisamment valorisé dans notre pays ? La valeur travail a-t-elle encore du sens ? Et puis le débat ne s'arrêtera pas là, puisque nous poserons la question, une question sensible qui revient souvent dans le débat concernant les aides sociales. Notre pays favorise-t-il l'assistanat à travers nos systèmes d'aide et les revenus sociaux, ou bien aide-t-il réellement les personnes en grande difficulté, mon cher Karim ?
Bon, tu nous as concocté un programme explosif, Fodil. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin ?
Ah ben là, j'ai la peste.
Bon, mais ça va. On va essayer de la partager alors. Lou, comment ça va ?
Ça va super, Karim.
En forme ?
Toujours.
Bon, tu as pu venir à la radio sans grande difficulté ?
Non, j'ai quand même attendu 50 minutes pour mettre de l'essence.
Comme tu as un peu galéré comme tout le monde. Lou, si on parle du premier sujet évoqué par Fodil, donc cette grève de carburant, on va le dire comme ça, cette pénurie aux stations de service, depuis quand cette grève elle a commencé déjà ? Rappelle-nous un petit peu le contexte et pourquoi les salariés sont partis en grève ?
Écoutez Karim, la grève a commencé depuis le 27 septembre dernier. Elle est donc à l'initiative de la CGT, dont les revendications sont assez claires. L'organisation réclame 10% d'augmentation des salaires pour les employés de Total Energy, 7% pour compenser l'inflation et 3% au titre des bénéfices exceptionnels du groupe qui s'élèverait à 10 milliards d'euros au premier semestre, notamment grâce à la hausse des prix de l'énergie.
Ouais, c'est vrai que ce chiffre, il est impressionnant. 10 milliards d'euros de bénéfices pour le groupe Total au premier semestre. Et une augmentation, ça aussi, on l'a vu passer, de 52% du PDG de Total Energy. Il s'est pas mal servi, le bonhomme. Donc, je pense effectivement que les salariés veulent une petite redistribution de ces milliards qui ont été gagnés au cours du premier semestre, notamment, mais pas que, parce que les bénéfices sont quasiment assez réguliers au sein du groupe Total. Et c'est bien qu'une entreprise fasse des bénéfices. Après, la question, c'est est-ce qu'on les redistribue avec une approche de justice sociale. Lou, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce mouvement ? Est-ce qu'il y a une issue possible ? C'est la question qu'on se pose tous.
Après une longue nuit de négociations, le représentant du syndicat CFDT aux négociations pour les salaires chez Total Energy a annoncé ce vendredi 14 octobre qu'un compromis avait été trouvé pour une augmentation des salaires de 7% et une prime allant de 3 000 à 6 000 euros. De son côté, la CGT a par contre quitté la table des négociations vers 2 heures du matin en dénonçant une mascarade. Alexis Antonioli, secrétaire général CGT de la plateforme Total Energy Normandie, a déclaré « Les propositions qui sont sur la table sont largement insuffisantes ». D'ailleurs, ce matin, Karim, un responsable de la CGT, a crié au mensonge en indiquant que la direction de Total aurait proposé 5% d'augmentation et non pas 7% comme annoncé.
Les raffineries, aujourd'hui, elles sont toujours à l'arrêt ?
En clair, la grève a évidemment été reconduite avec effectivement, comme vous dites, 5 raffineries qui sont toujours à l'arrêt. Une station-service sur 3 est encore en difficulté. Jeudi soir à 17h, 29,1% des stations manquaient d'un ou plusieurs carburants, selon le ministère de la Transition énergétique. Seule bonne nouvelle pour les Français, le mouvement de grève a pris fin hier à la raffinerie de Fos-sur-Mer, appartenant à Esso ExxonMobil, où un accord a été signé lundi avec la CFDT.
Bon, la Fos-sur-Mer, c'est chez moi, hein, je vous le rappelle, hein, c'est le département des Bouches-du-Rhône, le 13. Lou, dernière question, après je t'embête plus. Le gouvernement, dans ce contexte, est-ce qu'il agit ? Est-ce qu'il fait preuve d'impuissance ? Quelle est sa posture et quelles sont ses positions ?
Écoutez, Karim, c'est très simple. Emmanuel Macron a été interrogé, interviewé par France 2 mercredi soir. Il a promis un retour à la normale dans le courant de la semaine qui vient. Le président a lancé un appel à la responsabilité des dirigeants et des syndicats en déclarant « Ce n'est pas au président de la République de faire des négociations d'entreprise. Chacun doit être à sa place et prendre ses responsabilités. Je suis pour la négociation et jamais pour le blocage. » Il a toutefois prévenu « Si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitions. » Et je terminerai, Karim, en rappelant que faute d'accord trouvé avec la CGT, le syndicat en appelle à la grève générale mardi 18 octobre prochain. Une grève initialement prévue pour les cheminots, mais d'ores et déjà approuvée par de nombreux secteurs qui vont rejoindre le mouvement, comme les routiers, le nucléaire, l'énergie, l'éducation ou encore la fonction publique.
Le contexte semble assez bouillant. Alors, pour en parler avec nous ce matin, on a deux parlementaires impliqués sur le sujet. Aurélie Trouvé, d'abord, qui est députée de la NUPES, qui est députée de la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis, et donc et qui est avec nous en ligne. Bonjour, madame la députée.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Beurre FM. Vous l'avez entendu, donc dans cette introduction, on va évoquer la question de la grève chez Total. Ces salariés qui demandent une augmentation des salaires, qui nous semble assez légitime au demeurant quand on fait 10 milliards de bénéfices et quand on s'augmente de 52% en tant que patron, on peut se dire qu'il y a une redistribution des fruits de la prospérité. Pour autant, la direction Total a proposé, comme le disait Lou Pineda tout à l'heure, enfin à l'instant, une augmentation de 7% autour de la table des négociations. Est-ce qu'on va en sortir, madame la députée ?
Est-ce qu'on va en sortir ? Ça dépendra du gouvernement, parce que les revendications pour la hausse des salaires, d'abord, c'est pas que les raffineurs. Maintenant, c'est aussi dans tout un tas de secteurs. Et vous avez vu mardi, il y aura quasiment tous les secteurs qui seront en grève. Pourquoi ? La raison, elle est simple, c'est qu'on a plus 7% d'augmentation des prix, enfin plus 6% d'ici à la fin de l'année, plus 12% sur l'alimentation. Sur l'énergie, on nous annonce en 2023 une augmentation des prix de l'électricité et du gaz d'au moins 15% pour ceux qui ont la chance d'avoir le bouclier tarifaire. Donc les gens n'en peuvent plus, ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Donc c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de secteurs qui se mettent en grève, parce que d'un côté, il y a des salaires réels qui diminuent, et de l'autre, il y a des profits des grands actionnaires, des profits des multinationales qui explosent. Donc la situation est extrêmement injuste et beaucoup de Français n'acceptent plus cette situation, raison pour laquelle il y a la grève.
Et, madame la députée, quand on vous accuse, la NUPES au sens large, de vouloir récupérer ce mouvement et de surfer, j'ai envie de dire un peu, sur le malaise social dans le pays, vous répondez quoi ? Parce que vous appelez à la grève générale pour beaucoup d'entre vous, est-ce que c'est raisonnable de faire ce genre d'appel ?
Mais on n'appelle pas nous à la grève générale, c'est pas à nous de le faire, puisque c'est aux mouvements sociaux et responsables syndicaux de le faire. Par contre, nous soutenons les grévistes parce que nous considérons qu'il y a une situation profondément injuste. Il y a une situation qui mériterait un partage profond des richesses, parce que il y a des très riches qui sont de plus en plus riches et la plupart des Français qui souffrent de plus en plus, qui vont avoir, ça, il y a 12 millions de personnes, une personne sur 5 qui déjà n'avait pas les moyens de se chauffer correctement l'année dernière. Ce sera combien cette année? Moi, je suis en Seine-Saint-Denis, dans ma circonscription, dans les villes de Noisy ou de Romainville ou de Bondy, je peux vous dire que y a plein de gens qui gagnent 600, 700, 800 euros de retraite et qui n'arriveront pas, qui n'y arriveront pas cet hiver. Il y a des queues dans les banques alimentaires qui ne cessent d'augmenter. Donc voilà, dans cette situation-là, eh bien, nous soutenons la hausse des salaires et en plus, ce sera bon pour toutes les entreprises parce que si on augmente les salaires, eh ben, ça sera plus de demandes. Le boulanger, ben, et les gens seront capables de lui acheter plus de pain et tout le monde en bénéficiera. Alors que nourrir les profits des grands actionnaires, ça ne bénéficie à personne.
J'entends ce que vous dites, madame la députée. Vous êtes sur l'antenne d'une radio qui a une fibre sociale, une sensibilité sociale. On ne le cache pas au sein de Beurre FM. Mais en même temps, on essaie effectivement d'être constructif et réaliste. Quelles propositions concrètes vous êtes en mesure de faire en tant que parlementaire avec le groupe de la NUPES pour faire en sorte que les Françaises et les Français qui souffrent puissent s'en sortir mieux que ça n'est le cas? Comment on augmente les salaires, ça ne peut pas se décréter avec un coup de baguette magique parce qu'on n'est pas sur une économie administrée. Des groupes Total, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Total a fait des bénéfices exorbitants, on l'entend, et il faut redistribuer ces bénéfices. Mais on a quand même un tissu économique qui s'appelle TPE et PME dans notre pays, et eux ne font pas des bénéfices exorbitants. Et ils sont taxés parce qu'on a des services publics, on a une sécurité sociale, et ils ne peuvent pas augmenter les salaires. Donc cette quadrature du cercle, donc comment on fait pour en sortir en étant réaliste, en ne tuant pas l'économie et en servant plus de justice sociale?
Et alors, je vais vous dire, déjà, c'est des propositions qu'on a faites dès la loi pouvoir d'achat cet été et qui a été repoussée, et par la droite et l'extrême droite. D'abord, l'augmentation du SMIC à 1600 euros net. Parce qu'en réalité, en dessous de 1600 net, eh ben, c'est pas juste. Parce qu'on ne vit pas dignement alors qu'on travaille.
C'est vrai, mais comment font les petits patrons que j'évoquais, madame la députée, les charges?
Vous avez raison. Eh ben, vous avez raison sur les petites entreprises. D'abord, il faut bien voir que les très grandes entreprises, elles, ont des bénéfices qui explosent. Donc, déjà, nous proposons une péréquation des cotisations sociales entre les plus petites et les très grandes entreprises. C'est-à-dire que pour nous, les petites entreprises doivent payer beaucoup moins de cotisations sociales que les très grandes entreprises. Et la deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est que quand on augmente les salaires des gens, en fait, c'est une boucle vertueuse. Et notamment quand on augmente les salaires de la classe moyenne et précaire, parce qu'ils vont plus consommer. Et donc, vous savez, le premier problème des entreprises, et notamment des petites entreprises, c'est quoi? C'est le carnet de commandes. C'est d'avoir des gens qui viennent acheter des produits. Voilà. Et en fait, plus on appauvrit les gens, et moins il y aura des gens qui viendront acheter la baguette de pain, qui viendront voir le cordonnier, etc. Donc c'est comme ça qu'on aide les petites entreprises, qui viendront acheter le bouquet de fleurs chez le floriste. Parce que pour acheter un bouquet de fleurs, eh ben, il faut gagner assez. Voilà, donc donc déjà, c'est deux moyens. Et un troisième moyen, la lutte contre l'évasion fiscale. Parce que l'évasion fiscale, eh ben, c'est essentiellement les très grandes entreprises qui en bénéficient. En fait, les petites entreprises, elles payent plus d'impôts que les très grandes entreprises qui font plein d'optimisation et d'évasion fiscale. Donc là aussi, on propose de mettre beaucoup plus de moyens dans la lutte contre l'évasion fiscale. Vous voyez, c'est très concret. Et puis, dernière chose, eh bien, c'est de partager les richesses par une révolution fiscale qui permette d'imposer beaucoup les très riches, d'imposer beaucoup plus les très riches. Vous savez, nous, nos propositions, jusqu'à 4000 euros net par mois, dans notre proposition, vous paierez moins d'impôts. Après 4000 euros par mois, vous paierez plus d'impôts.
D'accord, c'était un peu l'approche de François Hollande qui trouvait qu'on était riche à 4000 euros par mois. Donc, je vais rester avec nous, madame la députée. On a bien entendu vos propositions. J'ai un député de la majorité, Patrick Vignal, qu'on aime beaucoup, qui est toujours disponible, qui lui aussi a une fibre sociale et qui ne le cache pas au sein de la majorité, qui pousse souvent des coups de gueule et qui est capable de se mettre, pas en opposition, mais parfois en divergence avec sa majorité. Là, je crois qu'il est pas très content de ce qu'il appelle une forme de récupération de certains parlementaires de la NUPES concernant le mouvement social. Bonjour Patrick Vignal.
Bonjour, bonjour Karim et bonjour chers collègues.
Oui, toujours poli, respectueux. J'aime bien Patrick, ça c'est important.
Mais oui, vous savez, quand je vois que les gens s'empaillent sur les chaînes de télé, à la radio, je trouve que c'est du théâtre. Le théâtre, il se fait à l'Assemblée. Et je vais même vous dire, Karim, des fois, on en a peut-être un peu besoin avec nos collègues, parce que quand même, c'est compliqué, c'est du stress. Et je crois que ma collègue dira pas le contraire. On essaie tous de faire bien. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes, si vous voulez, approches et les mêmes diagnostics. Moi, d'abord, j'ai fait un coup de gueule hier sur le PDG de Total. comment on peut se permettre d'attendre 3 semaines pour se mettre autour de la table? Comment on peut dire à des grévistes, vous arrêtez la grève et je discute avec vous? Comment on peut s'augmenter de 50% le salaire en 2021 quand le gouvernement, quoi qu'il en dise, on a fait le quoi qu'il en coûte qui a sauvé des millions d'entreprises?
Donc ils ont raison à la NUPES, Patrick.
Mais vous allez voir, ça c'est pour le constat. Après, moi je suis clair et j'aimerais que mes collègues soient clairs aussi. Dimanche, il y a une marche. Jean-Luc Mélenchon, la CGT, ils ont besoin qu'il y ait la France entière dans la rue. Donc arrêtons d'être faux cul. Vous savez, ce qui me gêne, Karine, c'est que la politique, c'est devenu le bal des faux culs. C'est-à-dire que chacun a sa chapelle. Et je vais vous donner un exemple. Quand c'est chez nous et que vous avez un collègue qui fait une erreur, on minimise. Et quand c'est dans l'opposition, on dit « Quatrenaise démission », par exemple. C'est un scandale. Quatrenaise, il fait ce qu'il veut. Il a été élu député, c'est son problème. Ou pareil chez Bayou. Et vous voyez, Karine, que les Français auront du mal à retrouver le chemin des urnes parce que on est tous dans des postures politiciennes. Et donc, je suis désolé de dire à ma collègue, mais ça vous arrange qu'il y ait le feu, puisque Jean-Luc Mélenchon, depuis le début, il n'a pas accepté la défaite. Et ce qui l'intéresse, c'est que dimanche, la rue descende pour dire « Regardez, c'est des nuls, moi j'ai le pouvoir, moi j'ai un programme. »
Patrick.
Et tout cela, ça défait la classe politique, Karine.
Patrick, j'entends ce que vous dites, mais c'est pas Jean-Luc Mélenchon et la CGT qui poussent les gens à l'exaspération parce qu'ils gagnent 1300 euros par mois et qu'ils n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Il y a un vrai sujet, Patrick. Au-delà des personnalités que vous évoquez, il y a un vrai sujet. On ne peut pas vivre dignement de son travail dans notre pays, vous le reconnaissez quand même.
Attendez, il y a 10 millions de personnes à moins de 2000 euros. Moi, vous savez à quoi j'appelle? À une vraie conférence des salaires. Moi, j'appelle à ce qu'on soit autour de la table. Sauf qu'aujourd'hui, la classe politique ne veut pas être autour de la table parce qu'elle a de la posture. Et aujourd'hui, on ne sait pas se parler en France.
Une grande conférence des salaires. Restez avec nous, mais je pense que c'est un sujet sur lequel les groupes parlementaires, malgré leurs différences, peuvent se mettre d'accord. On fait une petite pause et on revient. Restez avec nous, nos deux parlementaires qui sont là avec nous ce matin.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Nous sommes de retour dans Les engagés sur Beurre FM. Nous sommes ensemble jusqu'à midi comme tous les vendredis. Et aujourd'hui, nous abordons le sujet de la grève. La grève chez Total, est-ce que vous la trouvez légitime pour favoriser une augmentation des salaires en France? Car tout le monde s'accorde à dire quand même que la valeur travail est mise à mal dans notre pays. Beaucoup de nos compatriotes ne savent plus trop pourquoi ils se lèvent le matin. Quand vous gagnez 1000 euros, 1200 euros, 1300 euros, même 1500 euros, allez, soyons fous, 2000 euros à la fin du mois, franchement, vous, au 10 du mois, vous êtes à découvert, vous n'arrivez plus à boucler les fins de mois. Une fois que le loyer est payé, que l'énergie est payée, l'alimentation est prise en charge, les Français ont l'impression de quelque part de trimer, quoi. Le terme est un peu familier, mais c'est une réalité. Donc on aborde le sujet en s'appuyant sur cette grève qui nous dérange tous, parce que on a besoin de la voiture, on a besoin de nos scooters, on a besoin d'essence pour aller venir, aller au boulot, aller voir quelqu'un de sa famille qui est malade à l'hôpital. Mais il y a un combat qui est celui des salaires. Est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on le trouve insupportable dans le contexte? On a deux députés, une députée de la NUPES qui est avec nous en ligne, Aurélie Trouvé, qui est députée de la Seine-Saint-Denis, et Patrick Vignal, qui est député de l'Hérault. Donc Patrick Vignal nous disait, je suis pour une conférence des salaires avant la pause. Aurélie Trouvé, la parlementaire NUPES que vous êtes, est-ce que cette proposition, vous seriez prête éventuellement à lui dire chiche, on fait une conférence des salaires pour que derrière, toutes les entreprises de notre pays et l'ensemble de notre communauté nationale prennent conscience que les travailleurs, mais finalement, aujourd'hui, ils n'arrivent plus à vivre à la fin du mois. Ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins. Vous seriez d'accord pour cette conférence des salaires?
Ah mais tout à fait, on l'a même proposé pendant la loi pouvoir d'achat en amendement, mais ça a été repoussé par la minorité présidentielle. Donc, du coup, effectivement, il n'y a pas de conférence annuelle des salaires. Évidemment, nous soutenons ce que demandent d'ailleurs les syndicats comme la CGT, c'est-à-dire un Grenelle des salaires pour effectivement avoir une hausse généralisée des salaires. Voilà ce que devrait faire effectivement le gouvernement, je suis tout à fait d'accord. En même temps qu'une hausse du SMIC, parce que je le redis, on ne peut pas vivre dignement à 1 300 € net par mois, qui est le SMIC, voilà, à temps plein, quoi. Sachant qu'il y a plein de gens, par ailleurs, qui subissent des temps partiels. Juste autre chose sur la marche. Excusez-moi, c'est pas que la marche de Jean-Luc Mélenchon. Certes, c'était son idée au départ. En fait, c'est une marche qui regroupe maintenant des dizaines d'associations, beaucoup de syndicats également, qui regroupe également beaucoup de personnalités. Il y a 700 syndicalistes qui ont appelé à cette marche, des personnalités comme Annie Ernaux et plein d'autres. Donc, c'est une marche du peuple, une marche unitaire, qui a pour revendication principale la hausse des salaires, la retraite à 60 ans, parce que vous avez vu qu'ils veulent nous faire bosser plusieurs années de suite de plus, et qui veulent faire passer ça dans quelques semaines, et puis ensemble aussi porter la taxation des super profits. Voilà des propositions qui nous semblent raisonnables pour la période actuelle et
ben
pour
écoutez,
la suite d'ailleurs.
On va les trouver, on va interroger votre collègue Patrick Vignal, qui est un député de la majorité, qui a une sensibilité sociale certaine, authentique et sincère. Cette conférence des salaires, la NUPES, elle appelle de ses voeux. Est-ce que c'est pas vous finalement, Patrick, qui êtes esselé au sein de la majorité? Est-ce que c'est pas vous qui revendiquez plus de justice sociale? Est-ce que c'est pas vous qui indiquez effectivement que des Françaises et des Français souffrent, mais avec une forme, je dirais, de quelque part de discours que vous prêcheriez dans le désert parce que vos collègues ne vous suivent pas? La réalité, c'est que votre gouvernement, il donne le sentiment de pencher plutôt à droite, donc, et de ne pas prendre en compte ces enjeux de justice sociale.
Mais vous savez, Karim, regardez, je dis à ma collègue, déjà, elle nous dit la majorité présidentielle. Vous êtes toujours dans des éléments de langage, madame, que vous vouliez ou pas, le président de la République s'appelle Emmanuel Macron. Moi, j'aimerais qu'on arrête, vous savez, ces fractures verbales qui servent juste à alimenter de la haine. La France est au bord du burn-out, au bord du chaos. Moi, j'aimerais qu'on ait des débats apaisés. Regardez, en ce moment, nous sommes à l'Assemblée, nous avons une majorité relative. Moi, je l'ai toujours dit, ça me va bien. Est-ce que vous trouvez normal qu'il faille que les gens fassent grève dans la rue, bloquent des raffineries, ou mes chauffeurs de taxi ce matin sont en colère parce qu'ils ne bossent pas, parce que le petit jeune qui a son petit camion qui répare des clignes, il dit « Monsieur Vignal, j'en peux plus, moi j'ai une maison à payer, faites quelque chose ». Est-ce qu'il ne faudrait pas tranquillement se poser autour de la table, arrêter des postures politiciennes? Je le vois bien dans l'enceinte de l'Assemblée. Et je vais vous dire, madame la députée, hier j'étais à Lille, je propose une proposition de loi pour la mise en place de médiateurs ou de négociateurs de proximité. Je vous fais le pari devant Karim Zeribi et les milliards de personnes qui écoutent Beur FM ce matin. Vous la voterez pas avec moi, parce qu'on vous dira, même si vous voulez la voter, dans votre groupe on vous dira « tu la votes pas parce que c'est génial, il est de Renaissance ». Je suis allé avec Éric Coquerel au précédent mandat à Lisbonne pour travailler sur le cannabis. Certaines de chez moi m'ont dit « tu ne vas pas avec l'ennemi ». Mais moi, j'ai pas d'ennemi, chers collègues. Mon ennemi, c'est quoi, moi? C'est moi-même quand je dis des conneries sur des chaînes ou quand je vote des conneries. C'est cela qu'il faudrait changer. Mais je suis pas certain que tout le monde soit prêt à évoluer pour l'intérêt des gens. On évolue malheureusement pour l'intérêt de nos castes. Voilà. Ah, et ça,
alors,
ça suffit,
alors,
parce qu'on ne peut plus le faire.
Patrick, on a Aurélie Trouvé qui est avec nous. Madame la députée, la question qui vous est posée, c'est est-ce que vous êtes capable de sortir d'une posture d'obstruction permanente pour parfois trouver des points d'accord avec des gens que vous considérez comme étant dans un camp qui n'est pas le vôtre? Est-ce qu'on peut, à un moment donné, trouver des majorités pour soutenir le peuple de France qui souffre dans notre pays? Et je vous le dis, dans quelques secondes, je vais prendre un candidat à la présidentielle que nous trouvons fort sympathique, qui est monsieur Poutou, qui est un salarié syndicaliste qui a été candidat à la présidentielle et qui a accepté d'intervenir ce matin. Donc il interviendra sur vos propos à tous les deux. Mais est-ce que vous êtes capable de sortir de cette posture d'obstruction, Aurélie Trouvé?
Mais quelle posture d'obstruction?
Mais chaque fois que le gouvernement propose quelque chose, alors, on a l'impression que vous ne voulez pas voter.
Je peux vous expliquer ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand il y a par ailleurs un amendement, un article proposé, y compris par les députés de la majorité, excusez-moi, plutôt la minorité présidentielle à l'Assemblée nationale en tout cas, quand ils proposent quelque chose qui est valable, évidemment, nous votons, c'est pas un problème. Le problème, c'est que tout ce que nous avons proposé, tout, a été balayé, non pris en compte, par la droite et l'extrême droite, enfin la droite en l'occurrence, voilà, par cette minorité présidentielle. Et excusez-moi, j'utilise le terme de minorité présidentielle parce que vous avez fait le choix de ne pas demander la motion, la confiance à l'Assemblée nationale. Et donc, vous êtes aujourd'hui en minorité dans l'Assemblée nationale, ce qui fait que d'ailleurs, très certainement, vous n'arriverez pas à faire passer le budget à l'Assemblée nationale et que vous menacez maintenant d'un 49-3, c'est-à-dire de vous passer de l'avis du vote de l'Assemblée nationale, alors que nous avons été élus démocratiquement. Vous voulez vous en passer pour faire passer ce qui est le plus important dans l'année, c'est-à-dire le budget. Donc oui, j'assume expression de minorité présidentielle dans le sens où vous-même, vous n'avez pas fabriqué une majorité dans l'Assemblée nationale et que vous vous retrouvez maintenant en grande difficulté, que vous êtes obligé de squeezer l'Assemblée nationale pour le vote le plus important de l'année.
Merci Aurélie Trouvé. Merci Patrick Vignal. Si je vous propose de rester avec nous parce qu'on a Philippe Poutou qui est en ligne. Ce que je trouve dommage pour terminer, donc l'échange avec tous les deux, avec nos deux députés de la NUPES et de la majorité présidentielle, c'est que on a le sentiment que finalement vous ne pourrez jamais être d'accord. Et ça, je trouve que c'est assez désespérant pour le pays. Parce que les Françaises et les Français qui souffrent, eux, c'est leur vie quotidienne qui les importe. Et de vous voir, vous renvoyer un peu des anathèmes, oui, mais vous allez utiliser 49-3, mais vous ne nous écoutez pas, vous ne nous prenez pas en compte. Patrick Vignal dit, si on propose des choses, ils ne voteront pas avec nous. Vous, madame la députée de la NUPES, vous dites, mais nous, quand on propose des choses, la majorité ne le prend pas en compte. Franchement, vous croyez que les Français et les Français, ça les passionne, ça? Donc, s'ils se détournent de la politique, c'est parce que, justement, ils considèrent qu'à un moment donné, chacun est campé dans ses positions, ne veut pas entendre et écouter l'autre, donc, et refuse de passer des alliances qui pourraient servir l'intérêt général. Philippe Poutou, candidat à la présidentielle, qui est avec nous, qui est quelqu'un qui a toujours travaillé, qui a toujours été au contact des travailleurs, qui a cette légitimité, qu'on l'apprécie ou pas, Philippe Poutou. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui, lorsqu'il parle des travailleurs, il sait de quoi il parle. Bonjour Philippe Poutou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est très sympa.
Ouais, merci. Ouais.
Non, mais c'est très sympa d'être avec nous parce que on sait que vous devez être quand même largement sollicité dans ce contexte de grève chez Total, mais plus encore, est-ce que vous pensez que cette grève, elle peut en appeler d'autres? Il peut y avoir une convergence des luttes et une forme de mouvement de grève générale dans le pays. Vous le sentez, vous, ou vous dites ça, on en est loin?
D'abord sur le travail, là, c'est vrai que j'ai travaillé quasiment toute ma vie, enfin un boulot un peu normal dans une usine, mais depuis le licenciement de l'usine Ford, j'avais quasiment pas travaillé. En fait, à part mon activité militante, j'étais en congé reclassement, puis inscrit à Pôle emploi, et là je viens de retrouver un emploi, effectivement. Mais sinon, par rapport à l'actualité politique ou sociale, ben oui, c'est des moments que nous, on apprécie beaucoup. C'est des moments où il y a des gens qui relèvent la tête, qui osent revendiquer, se battre, et aujourd'hui, ben, il se trouve que ce sont les salariés dans les raffineries. Pas que, puisqu'il y a un appel pour mardi prochain et on verra bien ce que ça donnera, d'une extension de la grève, puisque la question des salaires, elle est posée partout. Et puis la question, en fait, des services publics, la question des retraites, la question de l'assurance chômage. Enfin, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui sont subies depuis très longtemps. Et là, il y a peut-être un réveil. Alors, on ne sait pas. Vous me demandez si on sent quelque chose ou pas. On n'en sait rien. C'est peut-être juste quelques jours où il y a du remous social et puis que ça va vite s'arrêter. On ne sait pas. Et peut-être que c'est le début d'un mouvement social profond. Nous, en tout cas, on espère que c'est le début d'un mouvement social qui va bouleverser énormément de choses. Et on compte là-dessus. Et par rapport à votre intervention juste avant sur la question des deux camps entre Aurélie Trouvé et puis l'autre député, ben oui, il y a deux camps. Et oui, il y aura des accords. Bien sûr qu'il y aura des accords. On est dans un monde où il y a des ultra-riches qui vont jusqu'au bout, qui continuent à piller les richesses, à se gaver et puis à exploiter, surexploiter l'autre camp social. Ben nous, on est du camp des opprimés, des exploités, et on pense que ben oui, ben pour régler les comptes, ben il faut se battre dans la rue, il faut faire grève, il faut occuper. Et donc, effectivement, il y a deux camps en désaccord, mais ça se réglera au rapport de force. Et aujourd'hui, ça se règle depuis longtemps dans le mauvais sens.
Mais Philippe
et peut-être
Poutou,
que la grève, c'est une grève générale, ça pourrait se régler dans le bon sens.
Philippe Poutou, Philippe. Je voudrais vous poser deux questions, et ces deux questions sont sincères. Le droit de grève, je crois qu'on est nombreux à tenir à ce droit de grève. Mais est-ce que c'est un droit de blocage, le droit de grève? Est-ce qu'on peut faire une différence entre le droit de grève et le droit de bloquer un outil de production? Parce que moi, j'ai été syndicaliste, j'ai fait grève, mais j'ai toujours respecté les gens qui ont décidé aussi de pas faire grève. C'est leur libre choix. Aujourd'hui, on a l'impression que le droit de grève, c'est le droit de bloquer l'outil de travail. Est-ce qu'on ne peut pas distinguer les deux?
Oui, il faut un droit de blocage, mais dans l'autre sens, Le droit d'exploitation est sans limite, le droit d'accumulation des profits est sans limite, le droit des revenus de dingue pour les dirigeants est sans limite. Donc, à un moment donné, il faut reconnaître des droits sans limite du côté de celles et ceux qui veulent se battre, ou en tout cas qu'on a légitimité de revendiquer des salaires.
Non, mais on ne peut pas faire une grève plus populaire dans notre pays. Philippe, pourquoi on n'a pas pris les stations-service pour distribuer du carburant gratuitement, par exemple? Pourquoi on n'a pas fait ça?
Parce que les gens font comme ils peuvent, se révoltent comme ils peuvent. Demain, peut-être qu'il y aura des mutineries, il y aura des révoltes.
Et ça non, mais sans parler de mutinerie. À la SNCF, les contrôleurs avaient fait ce qu'ils appelaient la grève de la pince. Ils faisaient grève, mais ils assuraient la sécurité des trains et ils ne contrôlaient pas les billets. Les voyageurs avaient leur train pour aller au travail. Ça ne les pénalisait pas. Mais ils applaudissaient le mouvement. Ils disaient, on vous comprend, bravo, faites grève. Et les recettes ne rentraient pas pour l'entreprise. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire pareil pour Total? Distribuer du carburant gratuit aux Français qui en ont besoin. Donc les recettes, on les aurait mises à mal. Là, on emmerde tous les Français, malheureusement, qui souffrent déjà.
Et non. Ça vous emmerde peut-être à vous, mais ça emmerde pas tous les Français.
Ça râle, Philippe, reconnaissez-le.
Ça râle aussi tous les jours sur la question des salaires, sur le pouvoir d'achat, sur la bêtise du pouvoir macronien, sur la répression ça râle tout le temps. Et puis là, vous vous rendez compte que ça râle que quand il y a des grèves aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça râle pas contre les grévistes. Ça râle contre la vie qu'on mène aujourd'hui, contre les inégalités sociales, contre la dureté de la vie quotidienne. Et c'est pour ça que la grève, elle est pas impopulaire. Il y a évidemment des problèmes politiques qui sont posés parce que les gens ont envie il y en a qui veulent bosser ou qui, s'ils n'ont pas l'essence pour aller bosser, ben, ça peut mal se passer là où ils sont. C'est vrai parce qu'en fait, il y a un surpouvoir patronal qui fait qu'aujourd'hui, les salariés sont tout le temps sous pression et menacés de perdre leur emploi si jamais ils vont pas au boulot. Donc il y a ces problèmes-là qui sont posés, effectivement. Mais en réalité, aujourd'hui, la résistance, ou en tout cas la lutte menée par les raffineurs, elle est populaire.
Oui, mais prenez SOS Médecins, Philippe. SOS Médecins, qui ne pouvait plus mettre de carburant pour aller voir les personnes malades. Non, mais ça, c'est des problèmes concrets. Quand on est syndicaliste et humaniste, on y pense à ça, Philippe.
Non, mais c'est parce que vous pouvez penser que c'est parce qu'il y a la grève qu'il y a ces problèmes-là. Nous, on peut répondre quand même que c'est pas la grève qui fait qu'il y a ces problèmes-là. Parce que là, vous parlez des gens qui peuvent pas aller bosser, du service de santé qui est menacé. Mais il est menacé depuis combien de temps, le service de santé? Les hôpitaux, ça fonctionne plus. Il n'y a pas assez de monde. On a vu avec le Covid, la crise sanitaire, l'incapacité du service public de santé de répondre aux besoins des gens. Aujourd'hui, les services publics sont complètement démantelés. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont au chômage, qui ne peuvent pas aller au boulot, pas parce qu'il n'y a pas de descente dans les fonctions essentielles. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas de boulot, parce qu'ils sont au chômage, dans la précarité.
Mais Philippe, est-ce que vous appelez à un mouvement national de grève?
Ah ben nous, on appelle à la grève générale. Enfin, on appelle, ça n'a pas de sens. Parce qu'on
vous n'avez pas peur que ce soit le chaos dans le pays?
Mais le chaos, il existe déjà. Hein. Franchement, il existe déjà. Et nous, on est pour, oui, un mouvement profond de contestation du système, une véritable bataille qui change les choses et qui impose au pouvoir et qui impose au capitaliste, à minima, une redistribution des richesses. Nous, on pense que même il faudrait poser le problème d'une économie qu'il faut socialiser, il faudrait exproprier Total, il faudrait exproprier la plupart des grands capitalistes parce qu'ils sont pas capables de gérer l'économie en fonction des besoins des gens. Donc nous, on pense qu'il faut aller plus loin, mais un chaos dans le sens, oui, il faut que les gens soient dans la rue.
Merci,
il faut un
Philippe.
Mouvement des gilets jaunes, puissance 10, puissance 100, mais l'intérêt de la grève, quelque part, c'est qu'elle permet de débattre de ces questions-là et elle met en évidence à quel point
c'est
la société, elle est à bout de souffle.
C'est pas faux. Philippe Poutou, j'ai envie de vous remercier d'avoir été à l'antenne de Beurre FM. C'est très sympa.
Ben merci de m'avoir invité.
Ne changez pas, vous êtes authentique. Qu'on soit d'accord ou pas avec vous, on aime votre authenticité, votre sincérité.
C'est gentil, merci.
À bientôt, Philippe. Bonne continuation à vous. Au revoir. Petite pause et on se retrouve pour poursuivre notre débat passionnant, qui est tendu certes, mais qui est passionnant quand même.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
On poursuit notre débat sur la grève chez Total, une grève finalement qui devait être levée, en tout cas nous le pensions tous avec la proposition de la direction Total, mais les syndicats estiment que cette proposition n'est pas sincère, donc ils ont décidé pour un certain nombre d'entre eux de poursuivre le mouvement. Alors ça veut dire que il y a des stations-service qui ne seront pas alimentées, d'autres le seront parce qu'il y a eu des réquisitions sur les raffineries. Du côté d'Exxon, la grève a été levée, donc toutes les stations Esso, elles, seront réalimentées, mais du côté de chez Total, ça continue de bloquer. On a Zaki qui est en ligne avec nous, auditeur de Beurre FM. Bonjour Zaki.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Zaki, cette grève, vous la trouvez quoi? Légitime? Insupportable? Parlez-nous un petit peu de l'impact qu'elle a pour vous.
En réalité, bien sûr que nous, en tant que citoyens, on est pris entre les deux feux. Et c'est normal, c'est très très ennuyeux. Aujourd'hui, c'est devenu presque vital d'avoir de l'essence, sinon on ne peut rien faire. Mais d'un autre côté, presque toute la France est dans la même galère. C'est-à-dire que les gens sont solidaires parce qu'ils comprennent. C'est pas qu'un problème chez Total, c'est un problème national. Les gens sont très très mal payés. Et votre prochain sujet, justement, la deuxième heure, sur la valeur de l'argent, la valeur du travail. Et en réalité, tout est la même source. Mais moi, ce qui me rend le plus fou dans cette histoire, c'est que quand on a l'intervention du président ou du gouvernement qui nous dit c'est pas à moi de rentrer dans les négociations, etc. Ça, c'est incroyable de dire ça parce que on a l'impression que Monsieur le Président et son gouvernement ne connaissent pas leur fiche de poste. C'est-à-dire que ça fait partie de leur rôle. En réalité, aujourd'hui, le souci, c'est pas Total. Total, c'est une entreprise. Comme toutes les entreprises, ça a but lucratif.
Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, vous ?
Mais justement, je vais vous dire, l'entreprise doit faire du profit. C'est dans son ADN, c'est sa mission. Et le gouvernement et le président, justement, c'est eux qui doivent défendre la nation.
Alors
et
comment, dans le cas présent ? Soyez précis, soyez concret, Zaki.
Oui, dans le cas présent, ils interviennent dans les négociations et ils mettent pression aux deux parties. C'est-à-dire que, moi, j'ai entendu Bruno Le Maire qui invite la direction de Total à payer un petit peu plus les agents et elle exige des gens de reprendre le travail. Non, il faut être entre les deux, faire tampon et les ramener tous à la table d'une consultation et trouver une solution gagnant-gagnant.
Pour vous,
gagnant,
la position
gagnant.
Du gouvernement, elle est trop molle.
Exactement. Non seulement elle est trop molle, mais en réalité, c'est un peu comme Jacques Chirac, quand il parlait de l'écologie, il disait « notre maison brûle et nous, on regarde ailleurs ». Ça veut dire qu'on parle, les hommes politiques sont des responsables politiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Et c'est ça. Et pour moi, c'est, le problème, il est là.
C'est intéressant ce que vous dites, Zaki. Mais Zaki, pour conclure, cette grève, donc si elle se poursuit, vous êtes en colère ou vous dites finalement
«
je les comprends
».
Donc la question des salaires, elle touche tout le monde, donc il faut qu'ils continuent.
Non seulement je pense qu'il continue, mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on ne règle pas les problèmes, ce qui va nous attendre derrière est beaucoup plus grave. Cette grève n'arrive pas comme ça. Il y a déjà eu les gilets jaunes. Et il y a quelques mois, même l'huile. On n'avait pas d'huile parce qu'il y a une guerre en Ukraine, mais il y a toujours eu des guerres. Là, on est en train de toucher le fond. Et si les gens ne se rendent pas compte, ça risque d'être pire. Et la dernière chose avant de rendre l'antenne, je pense que la source des choses, c'est qu'un pays doit être dirigé par des hommes politiques. Aujourd'hui, le président, ce n'est pas quelqu'un qui a fait son SPO ou l'ENA. C'est quelqu'un qui vient de la finance. Le Valérie Pécresse.
Il a fait l'ENA quand même, hein ? Excusez-moi.
Alors s'il a fait l'ENA, alors je me trompe. Mais en tout cas, de métier, c'est pas un homme politique de métier. Son ADN, c'est pas la politique. Et c'est pas le seul. Là, la dernière fois, j'ai entendu dans une autre très bonne émission de Beurre FM, qui est les informés, où il y avait la députée
Adil Farkan, notre amie.
Adil Farkan, exactement. Et une de ses invitées, c'est une figure montante de l'REM, qui s'appelle Prisca Thévenot. Elle aussi, elle a fait un MBA. C'est-à-dire aujourd'hui, le pays est de plus en plus dirigé par des gens qui ont fait des écoles de commerce, qui viennent de la finance. Et c'est un pays, la France est un pays, une entreprise.
Vous êtes passionnant parce que vous êtes passionné. Vous abordez beaucoup de sujets, vous soulevez effectivement des questions qu'on pourrait réaborder sur Beurre FM. Merci de votre fidélité en tout
cas.
Vous êtes très bon, Zaki, je tiens à vous le dire. Vous êtes très bon. Quoi que vous pensiez, vous êtes très bon. Bonne continuation, belle journée à vous, Zaki.
Merci.
Bye bye, bye bye. On a Arnaud qui est avec nous. Arnaud, bonjour Arnaud.
Bonjour monsieur Karim Zeribi.
Arnaud, alors qu'est-ce que vous voulez dire, vous, l'antenne de BFM, cette grève, elle vous dérange, vous la trouvez normale, vous êtes en colère, vous êtes avec les grévistes, c'est quoi votre position?
Ma position, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, qui est dans le transport médical, prélèvement donc de tissus médicaux pour un laboratoire de pathologie, je comprends ces personnes parce que voilà, on vit dans un monde aujourd'hui où c'est difficile, etc. Le taux de la vie a augmenté. Mais de l'autre côté, je suis un peu en colère parce que voilà, le gouvernement ne fait pas les choses comme il devrait le faire et ça nous pénalise quelque part.
Non, mais vous, dans votre vie quotidienne, le fait qu'il n'y ait plus de carburant, ça met en danger votre entreprise, ça
absolument,
met en danger des personnes malades, puisque vous êtes dans le médical, ou finalement vous arrivez à vous en sortir?
Mais non, le problème, c'est que ça met en danger, déjà, les personnes aussi malades, puisque les personnes malades, nous, on doit récupérer leur prélèvement, mais si on n'a pas d'essence, on ne peut pas les récupérer. Donc finalement, cette grève-là pénalise tout le monde.
Mais vous dites quoi? Vous dites aux grévistes arrêtez de faire grève ou vous dites les gars continuez, on est derrière vous parce qu'il faut gagner la bataille de l'augmentation des salaires. C'est quoi votre position?
Ma position elle est claire. Moi je dirais aux grévistes s'ils peuvent pour l'instant arrêter leur grève.
Voilà, vous voulez qu'ils arrêtent la grève?
qu'ils arrêtent la grève.
Ça veut dire qu'on abandonne le combat social.
Mais le problème que si on continue un combat social, eh ben nous on est pénalisés et tout le monde est pénalisé. Parce que le gouvernement aujourd'hui, il faut dire ce qu'il y a, ne bouge pas le petit doigt. Et ça peut durer comme ça, comme à l'époque des Gilets jaunes.
Ah, vous êtes alors, nombreux à en vouloir au gouvernement, j'ai l'impression, parce que vous estimez qu'il ne fait pas assez.
On vit dans un pays où on est dirigé par un gouvernement. Donc c'est un peu ça. Quoi. Donc on est dirigé par un gouvernement, mais le peuple, aujourd'hui, n'est pas très content comment le gouvernement dirige les choses.
Bon, donc, Arnaud, votre entreprise, elle fonctionne bien, ça va ?
Aujourd'hui, elle fonctionne bien, mais avec le problème de d'essence, on est obligé de faire la queue, on est obligé de mettre l'essence très tard la nuit, etc., ou sinon très tôt. Donc ça, on est un peu pénalisé, mais pour l'instant, on s'accroche parce qu'on pense aux patients. C'est notre priorité.
Je sens que vous êtes un vaillant, Arnaud. Accrochez-vous. Vous êtes un chef d'entreprise, mais je sens que vous avez de l'humain en vous. Donc c'est important. Je pense que vos salariés doivent être bien traités chez vous. Bonne continuation, Arnaud. Restez fidèles à Beurre FM. À bientôt.
Merci, monsieur Karim Zeribi.
Au revoir. On a Amal qui est en ligne avec nous. Amal, bonjour.
Non, c'est pas Amal, c'est Anen.
Pardon, autant pour moi.
C'est pas grave.
Vous appelez de Créteil. Je fais une erreur là ou pas ?
Exactement.
Ah, vous quand même, j'ai pas tout faux.
J'appelle de Créteil. Bonjour, monsieur Karim Zeribi.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien, Amal. Excusez-moi de l'erreur.
Non, c'est pas
votre
grave.
Votre témoignage veut porter sur quoi ?
Mon témoignage porte tout simplement sur le pour. Je suis pour cette grève, je suis pour qu'ils maintiennent la grève. Certes, c'est un bien de première nécessité, mais s'ils arrêtent de faire grève, ça va donner raison aux patrons. Et les patrons aujourd'hui, tellement qu'ils se sont gavés, il faudrait un petit peu redistribuer au peuple.
Vous bossez, vous, Amal ?
Non, moi je travaille de chez moi.
Bah, c'est pour ça peut-être que vous êtes pour. Soyons clairs, ouais. Amal, vous n'avez pas besoin de votre voiture. Si vous aviez besoin de votre voiture, peut-être que Amal dirait je suis partagé, je combats, je comprends le combat des salaires, mais quand même, ils me rendent la vie insupportable et peut-être que mon emploi serait en danger. Vous comprenez aussi les gens qui sont dans l'entre-deux ?
Non, je comprends autour de moi. Écoutez, autour de moi, j'ai beaucoup de personnes, des infirmières, des taxis qui sont énormément peinés, qui sont obligés de faire la queue, les taxis conventionnés ou même les taxis qui travaillent pour les aéroports. Les pauvres, ils sont très, 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 ils sont vraiment, si je puis dire l'expression, emmerdés. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Mais attention, dites-vous une chose. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau des raffineries de Total, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Parce qu'il se cache, ce qui se cache en dessous, c'est bien pire. C'est-à-dire aujourd'hui, la France c'est une bombe à retardement.
Vous pensez que ça va péter, vous ? Vous pensez qu'il y a un gros mouvement social qui nous attend ?
Je pense, sincèrement, je le pense.
Amal, vous le pensez, mais vous le souhaitez pas.
Mais certainement que je ne le souhaite pas.
Rassurez-moi.
J'ai envie que...
On a tous envie de cohésion, d'une société apaisée.
Je veux que le gouvernement puisse écouter le peuple, d'accord ? Parce que c'est nous qui avons voté pour eux. Normalement, si nous avons voté pour eux, ils doivent nous écouter. Mais s'ils ne nous écoutent pas, c'est pas normal. Vous voyez ? On écoute, on boit leurs paroles lors des élections, on boit leurs paroles lors des votes, on boit leurs paroles au moment où on nous demande d'aller
voter. Et au moment où il faut gouverner, il n'y a plus personne.
Exactement.
Amal, merci. Amal. Vous savez que c'est quand même pareil du côté de nos origines. Kamal. Donc je me suis trompé, mais c'est pas totalement éloigné.
C'est pas grave.
Merci Amal, Amal de Créteil. Merci de votre fidélité. Restez fidèle à Beurre FM. Merci Amal. Au revoir. Inès nous appelle de Paris. Alors Inès, j'ai l'impression que vous êtes pour et contre. Vous êtes entre les deux.
Alors non, moi je suis plus pour. Et beaucoup plus pour, parce qu'aujourd'hui on s'en sort pas en fait, tout simplement. Moi je suis quelqu'un qui a des gros problèmes de santé, je peux pas travailler, et malgré ça j'ai des enfants, je suis assez jeune d'âge, j'ai pas 40 ans, j'ai même pas 35 ans encore, et j'ai de gros problèmes de santé, et on n'y arrive plus.
Vous ne bossez pas, donc vous avez des problèmes de santé, vous ne travaillez pas.
Je ne travaille pas, mais je me déplace beaucoup avec mon véhicule. Moi aussi, je fais 3 heures de queue dans les stations essence et je comprends.
Vous vivez du RSA, Inès ?
Je vis de l'indemnité de personnes handicapées.
D'accord.
Mais je touche à 300 euros par mois.
Combien par mois ?
300 euros par mois.
C'est pas possible, comment on fait là ?
Si, je vous assure qu'on me donne 300 euros par mois.
Non mais Amel, comment on fait pour vivre? C'est pas possible. Déjà avec le SMIC, on n'arrive pas à vivre. 300 euros par mois.
D'avoir des personnes qui m'aident. J'ai la chance d'avoir un mari qui travaille. Voilà. Et puis on s'en sort pas à presque 4 euros le litre d'huile. Excusez-moi, mais c'est plus possible.
Donc, s'il y a un mouvement social, Inès, s'il y a un mouvement social d'ampleur nationale de même, vous n'êtes pas étonnée?
Ah non, pas du tout. Et je les soutiens, même si moi c'est embêtant, je dois aller chercher mes enfants à l'école en voiture.
Votre mari fait quoi, Inès? Votre mari, il travaille dans quoi?
Il travaille dans le milieu hospitalier.
D'accord.
Encore plus embêtant, mais malgré ça, eh ben, je comprends et je soutiens totalement.
Bon. Écoutez, en tout cas, votre message est clair, Inès. Vous galérez au quotidien, vous soutenez le mouvement social, et vous pensez que...
Beaucoup de gens comme moi qui galèrent.
Ouais, il y en a beaucoup, il y en a des millions.
On est en France, c'est pas possible.
Merci Inès de votre témoignage, merci de votre fidélité.
Bonne journée.
Bon courage en tout cas, pour vous et votre famille. Hein. Bon courage. On prend notre avocat, Maître Serroussi, qui est en ligne avec nous pour la rubrique Le Conseil Citoyen.
Le Conseil Citoyen.
Alors le Conseil citoyen cette semaine, c'est plutôt, j'ai l'impression, un éclairage citoyen, Lou.
Exactement Karim, comme chaque semaine, nous sommes en ligne avec Maître Hervé Serroussi, avocat en indemnisation de dommages corporels et figure montante du barreau de Marseille. Aujourd'hui, comme vous venez de le préciser, nous allons faire un éclairage citoyen au sujet des grèves qui se déroulent dans notre pays en ce moment. Qu'est-ce que permet réellement la Constitution? Jusqu'où peut aller le droit de grève? Avons-nous juridiquement parlant le droit de bloquer le fonctionnement d'un pays ou de ses citoyens? On répond à toutes vos questions maintenant.
Bonjour Maître Serroussi.
Bonjour Karim.
Merci d'être avec nous comme chaque semaine. Donc j'ai eu écho de la fin de l'épisode de votre cliente Nadia qui a quitté son logement et qui se retrouve dans une chambre d'hôtel parce que maintenant vous êtes un avocat très médiatisé, cher maître.
Merci Karim.
Ça fait trois fois que vous passez chez Cyril Hanouna.
C'est la troisième fois cette semaine, effectivement.
Vous allez devenir chroniqueur sur TPMP ou...
C'est pas encore ce qui est prévu pour l'instant. Je me consacre à mes clients à Marseille et c'est déjà une chose.
Et un peu à Beurre FM aussi, hein.
Et à Beurre FM tous les vendredis.
Restez fidèles, hein. Nous on tient à vous. Hein.
Ben, moi aussi je tiens beaucoup à vous et ça fait que je suis là et je resterai avec vous.
Merci maître. En tout cas cette médiatisation, même si elle n'est pas de votre fait, elle est méritée parce que beaucoup doivent savoir que vous êtes un très bon avocat, jeune avocat, mais figure montant du barreau de Marseille. Donc on est content aussi que ça puisse savoir. Maître, ce droit de grève aujourd'hui, beaucoup y tiennent, j'en fais partie. Je fais partie des Français qui disent le droit de grève il est constitutionnel, de qu'il faut surtout tout pas y toucher, c'est le droit de chacun à pouvoir se mettre en arrêt, manifester ses mécontentements vis-à-vis de patrons qui parfois exploitent les salariés, faut bien le reconnaître, pas tous, hein, parce que moi j'aime pas les généralisations et l'essentialisation, hein, et des patrons extraordinaires, hein, qui récompensent leurs salariés et notamment des petites et moyennes entreprises. Après il y a des grands groupes qui sont moins justes sur le plan social, mais le droit de grève on y tient. Mais est-ce que le droit de grève, maître, c'est aussi un droit de blocage de l'outil de production? C'est un peu ce qui se passe là. Par exemple, chez Total, il y a beaucoup de Français qui disent « Moi, je soutiens le mouvement de grève. » Mais je comprends pas pourquoi ils bloquent les raffineries.
Alors, j'entends quand même, mais vous l'avez parfaitement résumé. Le droit de grève en France, c'est un droit constitutionnel. Hein. La Constitution, c'est le niveau suprême, hein, au niveau législatif. Il n'y a pas au-dessus. C'est le texte le plus important en France. Donc, aujourd'hui, revenir sur le droit de grève, et vous l'avez clairement dit, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est un droit qui est utile et qu'il faut savoir utiliser avec à bon escient. Après, on est dans une situation contextuelle aujourd'hui qui est une vraie problématique. Et là, j'allais vous dire, il y a toujours cette problématique entre l'équilibre sur le maintien de l'ordre public, sur le maintien du service minimum et d'un autre côté ne pas entraver ce droit qui est un droit constitutionnel.
Mais les raffineries qui sont bloquées, maître, c'est condamnable ou pas? C'est légal ou pas?
Alors, vous savez, moi, je suis assez proche des textes. Hein. Les textes et les décisions, vous savez qu'en 2010, il y avait déjà à l'époque notre président de la République, Nicolas Sarkozy, qui avait demandé le déblocage des raffineries, parce qu'à l'époque, toutes les raffineries étaient bloquées par les grévistes. Et vous savez qu'il avait été à l'époque retoqué par le tribunal administratif dans le sens où le tribunal administratif avait estimé que cette demande n'avait pas de base légale. Donc, si on prend les antécédents, si on voit ce qui s'est déjà passé dans l'histoire judiciaire, on s'aperçoit que finalement, les magistrats protègent bien ce droit de grève, qui, je vous le rappelle, est un
donc
droit...
Donc, ça s'appelle la jurisprudence dans votre métier.
C'est ce qu'on appelle la jurisprudence.
Il y a une jurisprudence qui donne raison... aux salariés.
C'est pas exactement le même cas de figure, mais sur une problématique similaire de blocage de raffinerie, le tribunal administratif avait à l'époque demandé la suspension de la décision qui avait été prise par les préfets à l'époque de réquisitionner des salariés pour ouvrir les raffineries.
Maître Serroussi, on a mis en place un service minimum dans les transports. Ça veut dire que quand les salariés issus du monde des transports font grève, on a quand même des trains, des tramways, des métros, des bus qui peuvent circuler de manière minimum, donc qui desservent quand même à un moment donné, notamment aux heures de pointe, donc qui permettent aux salariés d'aller travailler. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour la question de l'énergie, qui est un besoin vital? On ne peut pas mettre un service minimum de l'énergie. Là, les pompes auraient été peut-être fermées la journée, mais elles auraient été ouvertes le matin, en fin de journée, parce que là, ne plus s'alimenter en carburant, waouh, oh, ça met en danger énormément de choses dans notre pays, notamment les emplois de travailleurs qui peuvent pas se rendre au boulot, mais aussi la santé, donc la vie de ceux qui peuvent pas être soignés parce que le personnel médical donc ne peut plus utiliser sa voiture.
J'entends, vous avez raison. Alors oui, effectivement, on a la possibilité aujourd'hui de remettre en place ce qu'on appelle un service minimum. Mais, et je vous l'expliquais juste avant, la raison pour laquelle la décision du tribunal administratif de Melun à l'époque avait retoqué la réquisition, c'est parce que cette réquisition, et vous allez comprendre, faisait repartir les stations dans un service normal. Voilà, ce que ne veulent pas les magistrats, c'est que l'enfreint au droit de grève soit total. Ça veut dire qu'on peut réquisitionner, c'est d'ailleurs ce que la Première ministre a proposé il y a quelques jours, on peut réquisitionner, mais on ne peut pas, par le biais de cette réquisition, refaire partir le pays dans un état normal. Alors, assurer un service minimum, oui, réquisitionner la totalité du personnel pour refaire partir le pays dans un état normal, c'est une enfreinte grave au droit de grève, et auquel cas, ça sera clairement retoqué par le tribunal administratif.
Dernière question, avant de vous laisser travailler et éventuellement vous rendre en audience, on se pose la question, est-ce qu'il est possible de faire une grève populaire dans le pays? En l'occurrence, dans le cas présent, ça aurait été d'ouvrir les stations et de permettre à ce que les gens puissent se servir gratuitement, donc plutôt que de les pénaliser, ça pénalisait les recettes de Total ça permettrait aux uns et aux autres de continuer de vivre normalement. C'est possible ça ou c'est utopique? C'est fou.
Ça s'est déjà produit, hein, Karim, ça s'est déjà produit, mais aujourd'hui, au niveau de la base légale qui est la nôtre aujourd'hui, c'est totalement utopique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette possibilité n'est pas une modalité d'exercice de droit de grève, c'est une infraction au code du travail, d'accord ? Il y a des sanctions disciplinaires lourdes qui peuvent être engagées contre les salariés qui se laisseraient la possibilité de permettre cette gratuité. Ça peut être d'aller de l'avertissement, blâme, une mise à pied, voire un licenciement. Donc on a des sanctions graves qui sont prévues. Ce n'est pas un jeu. La possibilité de la gratuité, on l'a déjà, ça s'est déjà exercé dans le cas des transports en commun, vous l'avez dit, ça s'est déjà exercé au péage. Et c'est finalement un vrai risque pour les salariés qui aujourd'hui ne s'aventurent plus vraiment à ça. Le seul précédent qu'on a en Europe qui a été autorisé par la Cour européenne des droits de l'homme, finalement, c'est en Turquie. Voilà, ça remonte à 2007. En Turquie, c'est un précédent où la Cour européenne des droits de l'homme à l'époque avait estimé que la gratuité des péages, puisque les salariés étaient partis, avaient laissé les barrières ouvertes, n'avait pas été condamnés et que leur employeur ne pouvait pas leur demander une indemnisation pour ce manque à gagner. Ce n'est pas transposable en France, donc aujourd'hui, moi, je mets en garde les salariés qui s'amuseraient à vouloir justement procéder à cette gratuité. Il y a un danger pour leur poste, pour leur carrière. Je pense qu'il faut faire les choses clairement. Ce droit de grève, aujourd'hui, est constitutionnel. C'est un droit qui est actionné lorsque le gouvernement a réquisitionné de façon trop large, ça a été retoqué par le tribunal. Laissons faire les choses, c'est gênant, mais c'est aussi le principe du droit de grève. Hein. Donc voilà, il y a la réalité économique d'un côté, il y a la réalité qui est la nôtre tous les jours avec la souffrance qui est la nôtre pour nous alimenter en carburant, mais il y a aussi ce droit qui est suprême et qu'il faut respecter.
Merci maître, comme chaque semaine vous avez été très précis. Rendez-vous la semaine prochaine.
Rendez-vous la semaine prochaine, Karim.
Merci, maître. Belle semaine à vous.
Merci
au revoir.
À vous, vous aussi.
Alors, on lance le deuxième débat dans les engagés.
Le débat des engagés.
Peut-on vivre dignement de son travail? Et on va aussi poser la question du système social à la française. Est-ce qu'il favorise l'assistanat ou il aide vraiment les gens en difficulté? Nous allons avoir un maire d'une ville populaire dans quelques instants en ligne, un maire qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il parle cash, et c'est vrai que on va dire qu'il peut être clivant, mais il a une parole authentique, une parole sincère. Lou, sur cette question de la valeur travail, comment on peut poser les termes de notre débat?
Vivre dignement du fruit de son travail, telle est l'ambition des Français. Mais pourquoi sont-ils si nombreux à constater que le travail ne paye plus? Certainement en cause, Karim, une inflation incontrôlable et des salaires qui n'ont jamais augmenté. Soyons honnêtes, cette très grosse augmentation des prix en parallèle de toute augmentation de revenus participe très clairement au sentiment de ne travailler pour rien. Côté entreprise, les indépendants, les artisans, les entrepreneurs attestent quotidiennement, en plus des charges qu'ils subissent, du nombre écrasant d'obligations administratives décourageantes. D'après l'OCDE, la France compte sans surprise parmi les pays les plus lourds du monde en termes de pression sur le travail et de prélèvements sociaux. L'économie française y figure toujours parmi les plus imposées, en haut de l'ensemble européen, lui-même économiquement peu dynamique. Souvenons-nous, Karim, qu'en 2018, ne plus pouvoir vivre dignement de son travail était bel et bien le message des Gilets jaunes, dont la révolte a trouvé son détonateur dans les trop nombreuses taxes, notamment sur le carburant.
Alors là, on parle de la valeur travail, mais souvent on corrèle effectivement à ce déficit de valeur et de sens que l'on donne au travail dans notre société aujourd'hui, aux aides sociales, aux revenus sociaux. Et beaucoup disent c'est plus de la solidarité qu'on fait, c'est de l'assistanat. Or, la République, c'est un système qui doit mettre en place un système de solidarité qui doit vraiment aider donc ceux qui sont dans le besoin, ceux qui en ont le plus besoin. Et on a l'impression parfois, je généralise pas, j'aime pas essentialiser moi, que certains en profitent d'un système social. Vrai ou pas?
Justement, Karim, c'est intéressant. Souvenez-vous de Fabien Roussel, ex-candidat communiste à l'élection présidentielle, qui avait créé un tollé en parlant de gauche des allocs ou de gauche du travail. Pourtant, derrière ces mots, un débat bien présent en France, à savoir le rapport au travail, le modèle social, quel niveau de protection et pour qui. Et il est vrai que dans une période plutôt tendue, ce débat se cristallise souvent autour de cette fameuse notion d'assistanat. Il y aurait donc, comme vous dites, un côté une France qui travaille et de l'autre une France qui profite des aides sociales.
Est-ce qu'il y a un institut qui a travaillé sur la question, par exemple?
Mais début octobre, l'institut Elab a publié un sondage pour Les Échos, Radio Classique et l'Institut Montaigne qui révèle que près de 2 Français sur 3 jugent qu'il y a trop d'assistanat. 65% des sondés estiment que, et je les cite, « notre modèle social a trop d'effets pervers et n'encourage pas à faire des efforts ». Bien que 44% des personnes interrogées pensent que le niveau des aides est trop élevé, elles sont aussi majoritaires à estimer que les aides pour la retraite, la vieillesse, la lutte contre la pauvreté et la santé ne sont pas assez importantes.
Et les Français dans tout ça, ils pensent quoi de la fraude sociale? Ils y croient? Ils sont en colère contre?
C'est effectivement le dernier enjeu, c'est donc la crainte des fraudes qui est de plus en plus forte depuis que les Français ont compris que la situation des finances publiques était critique entre RSA, primes d'activité, APL. Que représente vraiment la fraude pour leur Karim? Soyons honnêtes, il est impossible de chiffrer précisément le montant des fraudes aux prestations sociales, faute de données suffisantes fournies par les organismes sociaux. Malgré tout, un chiffre, en 2021, la Caisse nationale des allocations familiales, organisme qui verse le RSA, a détecté 309 millions d'euros de fraude sur les 95 milliards d'euros de prestations sociales versées au total pendant l'année. Alors, en effet, le système social favorise-t-il cet assistanat? Peut-on encore vivre dignement de son travail? On en débat tout de suite avec vos invités, Karim, mais surtout avec nos auditeurs. Appelez-nous au 01 53 48 3000.
Merci Lou. 01 53 48 3000. Vous avez été nombreux vers ce numéro au cours de la première heure. Continuez, témoignez, venez nous dire, est-ce que vous pensez que les aides sociales dans notre pays sont bien distribuées? Est-ce qu'on a vraiment un système de solidarité? Ou est-ce que certains abusent un peu et ça devient de l'assistanat? D'autres vont travailler pour peut-être aider ceux qui finalement n'ont pas tant besoin d'aide que ça. Donc on en parle avec Robert Ménard. C'est mon invité. Le maire de Béziers, ville populaire. Robert Ménard, je le disais, donc c'est un maire qui est clivant, c'est un personnage politique qui dit ce qu'il pense. Alors, on l'apprécie ou pas, en tout cas, nous, on lui donne la parole ce matin parce que on sait qu'il a, il a les idées claires. C'est un maire de proximité, Robert Ménard. Il a été élu au premier tour aux dernières élections municipales. Quoi qu'on veuille en penser, ça veut dire que les habitants de Béziers, de droite, de gauche, du centre, ou de je ne sais où, ont voté majoritairement pour lui. Bonjour Robert Ménard.
Bonjour à vous.
Robert Ménard, qu'est-ce que vous pensez de ce débat, vous? La valeur travail, elle a encore du sens dans notre pays? Les aides sociales, elles sont bien distribuées? Vous qui êtes un maire de proximité, comment vous vivez ça au quotidien dans votre ville?
Écoutez, souvent je souris, hein. J'entendais avec intérêt là, le papier de votre collaboratrice, elle a raison de souligner quelque chose qui est quand même une espèce de fonds de commerce typiquement français. Vous demandez aux gens s'il y a trop d'assistanat, ils vous disent oui. Et en même temps, si vous leur dites oui, mais alors pour l'allocation logement, pour l'allocation familiale, pour ça, là il faut plus y toucher. Vous avez compris, c'est toujours les autres qui ont trop d'assistanat. Et puis soit, ah non, c'est normal, vous savez, c'est comme les hommes politiques, ils disent toujours, ah oui, il faudrait moins de fonctionnaires. Oui, moi je suis d'accord dans l'absolu, et j'essaye de le faire dans ma mairie, mais quand vous leur dites, ils disent, ah oui, mais pas dans l'éducation nationale, pas dans la police, pas dans les pompiers, pas dans les hôpitaux, alors tu leur dis, où finalement, tu les fais où, tes coupes budgétaires. Évidemment, le seul exemple qu'ils ont, c'est Bercy, comme personne n'aime Bercy, parce que c'est ceux qui nous ponctuent nos impôts. On est d'accord au moins là-dessus.
Comment on gère ces contradictions, Robert ?
Ben, on les gère comme on peut. Je vais vous donner un exemple, parce que vous le disiez, moi je suis un maire qui essaye de gérer au quotidien ces problèmes. Par exemple, une mairie comme la mienne, mais comme toutes les mairies de France, vous savez, on a des centres communaux d'action sociale qui aident. Et parmi les aides, il y a des aides facultatives. Ça veut dire quoi en français dans le texte normal? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour de nourriture, on distribue des bons pour acheter de la nourriture. Toutes les mairies le font. Moi, je le fais, mais comme tous les autres. Je dis pas que je suis mieux que les autres là-dessus. Je le fais. Et de temps en temps, on donne beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire que quelqu'un a besoin, par exemple, de passer un jeune un permis de conduire. Vous savez, c'est important d'avoir le permis de conduire pour trouver un boulot. Et là, d'un coup, ça fait 1000 euros ou plus de 1000 euros. Et j'ai proposé un truc tout simple, de bon sens, c'est de dire, quand les aides dépassent 1000 euros, on va dire à la personne en question, bah écoutez, en échange de ces aides, vous allez aider ou les services de la ville ou une association. Vous avez compris, c'est pas la révolution. Vous allez passer quelques heures. Mais vous savez pas le tollé que je me suis pris. Mais vous n'imaginez pas que comment, au lieu de donner aux gens, au lieu de donner, c'était comme si c'était un dû pour eux. J'imposais l'idée que c'était un dû de travailler. Mais oui, il me semble normal que si on aide une commune, vous pouviez aller passer. Alors en plus, je vais vous dire, c'était 18 heures dans les 3 mois de boulot pour une association. Pour 1000 euros, c'est pas ridicule, je sais pas ce que vous en pensez, ça me semble évident. Je vous donne cet exemple parce que c'est un exemple parlant. Et la décision a failli être cassée par l'administration en disant que je n'avais pas le droit de faire ça. Alors voilà, je vous dis, moi j'essaye pas de répondre généralement, parce que je vous dirais généralement quoi ? Je vais vous dire, oui, les salaires sont trop bas, et l'assistanat est trop haut. L'écart entre les deux, de temps en temps, vous pousse pas à bosser. Mais en même temps, vous me direz, vous l'avez dit, la dame l'a dit, il y a trop de prélèvements sociaux. Mais attendez, les prélèvements sociaux, ils aident à payer un certain nombre de choses. Il faut arrêter de faire de la démagogie à 3 balles comme les politiques de tout bord, y compris ceux qui sont plutôt proches de moi à fond. Si vous diminuez les prélèvements sociaux, et on va payer comment un certain nombre des aides qu'on fournit grâce à ces prélèvements sociaux? Il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Voilà ce que je voulais vous dire.
Robert Ménard, si je dis que Robert Ménard, allez, je vais employer un terme, ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est pas grave. C'est un peu assagi ces derniers mois. Vous diriez quoi ? Moi, j'ai vu un Robert Ménard qui est vachement équilibré ces derniers mois dans ses sorties médiatiques. Vous avez dit, je l'ai vu à la télé dans une émission, j'ai honte des positions que j'ai prises concernant l'accueil des réfugiés syriens, quand je vois aujourd'hui que je suis favorable, comme beaucoup de nos compatriotes, à l'accueil des Ukrainiens. J'ai fait une erreur. J'aurais dû être plus ouvert et plus accueillant. Vous l'avez dit. C'est cette forme de mea culpa. Pourquoi vous le faites? Il y a des politiques qui sont incapables d'en faire des mea culpa.
Je sais pas. Moi, quand je fais une connerie dans la vie, je le dis. Vous le dites pas, vous, si vous vous trompez. Enfin, je suppose que vous êtes trompé comme moi, alors pas dans les mêmes domaines, mais que ça arrive. Je pense pas que ça enlève quelque chose, que ça m'enlève quelque chose à mes propres yeux. Je parle aux yeux des autres, c'est un autre problème, et c'est pas mon souci en l'occurrence. Mais je pense que vis-à-vis de moi, j'ai besoin de me dire, quand j'ai dit quelque chose, je me suis trompé, de le reconnaître. Je veux dire, c'est comme, vous savez, moi je suis beaucoup dans les médias, vous le savez. Moi, il y a tout un tas de fois, je dis, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que vous, Karim, je suppose que vous savez pas tout sur tout. pas plus que moi. Et, mais les hommes politiques, non seulement ils veulent pas reconnaître quand ils disent des conneries, ou ils se trouvent tellement d'excuses qu'à la fin, ça fait que, au fond, ils y étaient pour rien. Et de la même façon, on a l'impression que c'est des gens qui savent tout sur tout. Mais moi, il y a tout un tas de domaines où je ne sais pas.
Il est où politiquement, Robert Ménard, aujourd'hui?
Mais parce que
vous avez soutenu, Robert, vous avez soutenu Marine Le Pen à l'élection présidentielle.
On a
un certain nombre à vous connaître. On a été surpris. Vous avez été l'ancien patron de Reporters sans frontières. Oui. Vous passez, je l'ai dit au premier tour, à Béziers. Ça veut dire que les habitants de Béziers, quelle que soit leur sensibilité,
sont capables de voter pour vous. Ma femme et moi, on fait 70% des voix dans cette ville.
C'est pour ça. Donc ça veut dire que il y a des gens de tous bords qui votent pour vous et qui reconnaissent votre travail de proximité. Donc cet engagement à l'extrême droite, est-ce qu'il vous correspond vraiment?
Mais écoutez, ça se pose pas dans ces termes-là. Moi, pourquoi j'ai voté, en plus le dire à votre micro, je veux absolument le dire. Pourquoi j'ai voté, j'ai appelé à voter Marine Le Pen? Pour deux raisons. Parce que sur deux questions, elle est la seule depuis des années à les poser. Attendez, écoutez bien ce que je dis, Karim. Je dis pas à apporter les bonnes réponses, mais à les poser. Moi, je me suis fait traiter de facho sur des plateaux de télévision parce que je disais que dans ma ville, comme dans toute la France, il y a un problème de sécurité. Mais vous rigolez, il n'y a pas de problème de sécurité en France. Même Madame Hidalgo, elle comprend que peut-être maintenant, une police municipale, ça sert à quelque chose. Et la deuxième chose, je dis oui, il y a un problème avec une immigration de masse non contrôlée. Contrairement à un certain nombre de mes amis, j'ai jamais dit qu'on arriverait à une immigration zéro. Mais oui, sur ces deux questions, c'est les deux questions que non seulement Monsieur Macron a été incapable d'apporter des réponses, mais il a même pas osé les poser. C'était pas un problème. Et en même temps, je suis capable de dire de Marine Le Pen qu'elle est anti-européenne de façon qui n'a pas de sens, pour pas être plus dur dans le choix du qualificatif. Sur la guerre en Ukraine, c'est moins pire qu'Éric Zemmour, qui était mon ami, mais quand même, ils ont une espèce de tropisme pour
il a une obsession quand même envers les musulmans, c'est de la folie.
Ben oui, ils aiment les enfants et tout ça. Attends, je suis d'accord avec vous. On est d'accord là-dessus. Et troisième point, sur les questions économiques et sociales, elles disent souvent n'importe quoi. Voilà.
Robert Ménard, est-ce que vous êtes en mesure de dire que si on doit maîtriser notre immigration, on doit aussi reconnaître qu'il y a des immigrés dans notre pays qui sont utiles à l'économie du pays, qui aiment la France et qui méritent aussi le respect?
Bah attendez, vous plaisantez, j'étais 23 ans le patron de Reporters sans frontières. Je me suis battu dans le monde entier pour défendre des gens. Comment on peut penser une seconde, quoi? Vous croyez que je suis xénophobe? Enfin, vous rigolez. Demandez aux gens que j'ai défendu dans
tous les
pays du
monde. Mais pourquoi vous montez pas un parti? Parce que quand on vous écoute, vous avez rien à voir, Marine Le Pen, Robert.
Mais non, mais moi j'ai jamais été au Rassemblement National, je vous le dis tout de suite. Et je n'y serai jamais, je vous le dis tout de suite. C'est pas mon problème. Moi je me méfie des partis politiques. Parce qu'après les intérêts de boutique, intérêts de parti et tout ça, ça prend le pas sur ce qu'on peut penser être utile à la France. Et puis, je vais vous dire un truc tout bête, qui va vous paraître une stupidité. J'ai jamais, dans ma vie, demandé l'ordre à qui que ce soit de dire ce que je veux dire. Alors, je vais pas commencer demain.
Vous êtes un homme libre.
Je dis ce que j'ai envie
de dire, Robert.
Et j'essaye d'être un bon maire.
Merci Robert. On va faire une tournée, nous, dans les communes de France, avec Beurre FM.
Et venez me voir.
Donc, si on vient vous voir, ça vous va?
Impeccable.
Merci Robert. Belle continuation à vous. Vous avez éclairci certains points. C'est nécessaire. C'est aussi pour ça que les médias et l'antenne de Beurre FM, finalement, parfois, les gens ne sont pas ce qu'on pense qu'ils sont. Donc, il faut approfondir, il faut creuser, sortir des préjugés. Et dans tous les sens. Petite pause et on revient.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
Pour notre deuxième heure sur Beurre FM, on a décidé d'aborder le sujet de la valeur travail. Est-ce que cette valeur a encore du sens dans notre vie quotidienne? Appelez-nous 0153 48 3000, 0153 48 3000. Je le répète, vous avez été nombreux au cours de la première heure à composer notre numéro pour témoigner sur la grève chez Total. Est-ce que vous la trouvez insupportable? Est-ce que vous la trouvez légitime? Très bon témoignage. Je pense à Zaki, Inès, Amel, pour ne citer que ces trois intervenants. Donc, abordez le sujet avec nous. Votre travail, est-ce que lorsque vous levez le matin, il y a du sens à aller bosser? Est-ce qu'à la fin du mois, vous trouvez que vous êtes rémunéré à votre juste valeur. Tout travail mérite salaire. C'est un adage que nous connaissons tous, qu'on nous a souvent répété. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, les salaires correspondent au travail donc des uns et des autres? On sait que les Françaises et les Français sont à court au 10 du mois. On sait que le loyer, par exemple, représente 50% des charges d'un ménage. On sait qu'il y a l'inflation sur les produits essentiels, les pâtes, je pense à ce produit qu'on aime tous, même si on n'est pas italien, le riz, et l'huile, le beurre, en fait, tous ces prix qui sont astronomiques aujourd'hui. Est-ce que ça vous touche? L'énergie qui a augmenté de plus de 10%, de 10 points, le gasoil, mais aussi l'électricité, fait, vos factures, elles explosent. On le sait, on vit tous la même chose. Après, les salaires ne sont pas les mêmes en fonction du statut social des uns des autres. Mais on a quasiment 12 millions de Françaises, de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On a 2 millions de travailleurs qui vivent à 1300 euros par mois. On a 80% de la population qui vit en dessous de 2500 euros par mois. Cette question-là, il faut l'aborder politiquement. Et au-delà des camps des uns et des autres, il faut qu'on trouve des solutions. Parce que personne n'a envie que ce soit le chaos dans notre pays. Personne n'a envie que ce soit la guerre sociale, que ça explose. Et que derrière, on puisse ne plus vivre en sérénité dans notre grand et beau pays. Donc il faut des solutions. Et pas des solutions politiciennes de court terme, des solutions structurelles. Que les entreprises fassent des bénéfices, c'est normal. Nous sommes contents. Que ces bénéfices soient justement distribués, c'est normal aussi. Donc moi, je ne dis pas que les patrons sont des tyrans qui ne sont pas justes avec leurs salariés, parce que j'en connais beaucoup qui redistribuent, qui font de l'intéressement, qui donnent des primes, qui augmentent les salaires lorsqu'ils peuvent, mais eux aussi sont taxés. Parce qu'il faut payer les services publics, il faut payer la sécurité sociale. En fait, c'est un tout. Et quand on aborde la question dans sa globalité, on se rend compte que finalement, on pourrait trouver des solutions si la volonté politique est là. Elle manque un peu, cette volonté politique. Et c'est pour ça que les Françaises et les Français vont moins vers les bureaux de vote et les urnes au moment des élections. Mais ne vous découragez pas. Car si vous n'allez pas voter, ben certains décideront pour vous, à votre place. Donc même si on n'est pas content, même si on est en colère, même si on pense qu'il y a des promesses qui ne sont pas tenues, il ne faut jamais rien lâcher. Il faut toujours aller voter. C'est un droit et c'est un devoir. Nous avons en ligne avec nous, pour poursuivre le débat sur cette question, peut-on vivre dignement de son travail, sur le système social français, est-ce que c'est un système de solidarité, est-ce que c'est un système d'assistanat? On a souhaité avoir Nicolas Framont, qui est sociologue et qui est rédacteur en chef de Frustration Magazine. Alors Frustration Magazine, je vais d'abord demander à Nicolas de définir quel est ce média en ligne, parce que voilà, il y a des mots forts quand on regarde un petit peu les fondements de ce média, guerre des classes, anti-élitiste. Bonjour Nicolas Framont.
Merci de m'avoir invité.
C'est normal. Nous, on est pour la liberté d'expression, même si on a une sensibilité. Et chacun sait qu'elle est humaniste, républicaine, laïque, sociale. J'avais envie de vous donner la parole parce que sur les réseaux sociaux, vous êtes très actif avec votre média, Frustration Magazine, pour dénoncer les injustices, mais aussi pour donner votre avis. Sur cette question de la valeur travail, comment vous vous positionneriez ?
Bah justement, je me positionne j'écoute vos constats et je les partage complètement. Ce qui se passe en France, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays du monde, c'est que on ne peut plus ou de moins en moins vivre dignement de son travail. Et ça, c'est pas un hasard, c'est passé parce que toute une partie de la valeur créée par le travail a servi à rémunérer le capital. Alors comme vous disiez, ça peut être logique dans un système capitaliste, sauf que c'est devenu de plus en plus fort. Et donc la part de ce qu'on produit qui revient au capital au lieu de revenir au travail, n'a cessé d'augmenter. Ce qui fait que nous, il nous reste de plus en plus des morceaux de ça. Ils nous permettent plus de vivre. Et c'est d'autant plus fort qu'en tant que contribuable, on finance de plus en plus les entreprises, de moins en moins notre système de protection sociale, et en fait on ne récupère pas les gains de ce qu'on finance par nos impôts.
En gros, Nicolas, vous nous dites, on sert les actionnaires mais pas les travailleurs.
Bah exactement, et ça c'est pas une croyance, c'est pas une idéologie, c'est un fait. Si on constate le nombre de jours qu'on travaille pour rémunérer les actionnaires chaque année, il est de plus en plus grand, il est à peu près 10 fois plus grand qu'il ne l'était dans les années 80. Et en tant que contribuable, dans les années 80, l'État finançait 10 milliards d'aides, de subventions, d'exonérations de cotisations pour les entreprises. Actuellement, l'État donne 140 à 200 milliards d'euros par an aux entreprises. Et cet argent, c'est pas nous qui le récupérons comme travailleurs, c'est pas nos territoires qui le récupèrent sous forme d'investissement, d'ouverture de nouvelles industries, de services, etc. En fait, cet argent, on le perd. Donc vous voyez, en fait, on perd deux fois, en tant que travailleur, parce qu'on est de moins en moins, moins bien payé, et en tant que contribuable, parce qu'on finance des entreprises qui s'en servent pour rémunérer leurs actionnaires. Et ça, toutes les études le montrent.
Nicolas, en tant que sociologue, mais aussi rédacteur en chef de Frustration Magazine, vous dénoncez des faits, des réalités, vous faites des états des lieux, mais est-ce que vous êtes aussi force de proposition? Et en la matière, si vous aviez deux propositions très concrètes, très fortes, propositions structurelles sur l'économie française, quelles seraient-elles?
Alors, la première, c'est de faire en sorte que quand de la richesse est produite au sein d'une entreprise, eh bien, elle serve à rémunérer d'abord ceux qui la produisent, donc d'abord les travailleurs. Donc ça, c'est une proposition qui existe depuis très longtemps, hein, qui a longtemps été portée par le mouvement ouvrier, c'est de dire qu'il faut socialiser les entreprises, c'est-à-dire faire en sorte que quand on travaille, on se rémunère d'abord soi.
Donc c'est l'intéressement, ça.
Ouais, bah, l'intéressement, ça existe, mais en fait, c'est très très marginal. L'intéressement, par exemple, que touchent les travailleurs de Total, c'est rien par rapport à ce que touchent les actionnaires de Total. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que la part qui revient aux actionnaires soit de plus en plus minoritaire à travers le temps, bah, pour qu'on puisse récupérer la richesse que nous avons produite. Et la deuxième proposition, c'est de faire en sorte que nos impôts qui aident les entreprises les aides sur de vrais critères. Actuellement, ce qui se passe, c'est que les 140 milliards dont je vous ai parlé, hein, ça c'est un rapport qui est sorti la semaine dernière, en fait, la plupart, ils sont distribués aux entreprises sans condition. C'est-à-dire que les entreprises en font ce qu'elles veulent et c'est pour ça qu'elles en profitent pour rémunérer leurs actionnaires. Et c'est normal, finalement. Mais ce qu'il faudrait, c'est que ces milliards qu'on verse aux entreprises, ils soient conditionnés. Et je pense que la première condition, par exemple, qu'on devrait faire dans le système actuel, c'est conditionner au fait de payer décemment ses salariés, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de payer les gens si mal, et puis de faire en sorte que ces activités soient vertueuses, par exemple, sur le plan écologique. Actuellement, on finance les entreprises pour leur recherche-développement, on leur donne des subventions, on les exonère de cotisations patronales, et elles peuvent continuer à polluer, elles peuvent continuer à vendre des choses inutiles, et à contribuer en fait à...
Vous voudriez qu'on récompense la RSE, la responsabilité sociale, sociétale, environnementale de l'entreprise?
Ah bah, c'est-à-dire qu'il faudrait le faire bien plus qu'on le fait actuellement. Il faut arrêter de donner d'argent public à des entreprises qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général.
D'accord, deux propositions concrètes. Dernier point que je voulais voir avec vous, dans votre approche qui, autant que faire se peut, fait preuve de discernement, sur la question du système social français, du système de solidarité, vous diriez qu'il est, il est vraiment aujourd'hui vertueux ou qu'il y a quand même quelques brèches qui font que ben, certains se disent « je vais pas me lever le matin, ça vaut pas le coup, je préfère vivre des revenus sociaux et des aides ». Ça existe ou quand on dit ça, on est un grand méchant loup?
En fait, des cas comme ça, j'imagine que certains auditeurs en connaissent, etc., ils existent. Mais ce que nous disent les différentes études sur le sujet, c'est que ce cas-là, il est extrêmement marginal. Et le cas qui est le plus développé, c'est les gens qui... c'est pas les gens qui profitent des aides pour pas travailler le matin, c'est les gens qui ne font plus les demandes d'aide parce qu'ils ont trop peur des conséquences, ils ont trop peur du regard de leurs proches, ils ont trop peur des contrôles de l'administration.
Alors, il y en a beaucoup, donc, hein, Nicolas. Vous avez des chiffres là-dessus? Parce que je pense avoir vu passer le chiffre de 30% de personnes qui ne demandaient pas ce à quoi ils avaient droit sur les revenus sociaux.
Exactement, c'est sûr. On a eu des chiffres il y a 2 semaines sur le chômage. C'est plus d'un quart des gens, effectivement, qui ne demandent pas le chômage quand ils sont au chômage. Donc, en fait, le cas majoritaire, c'est pas des gens qui profitent, c'est des gens qui ne profitent pas. Notre système de sécurité sociale, c'est un énorme progrès humain. On n'aurait pas, les inégalités seraient bien plus fortes, on aurait de la grande pauvreté. Alors, c'est déjà le cas, mais elle serait développée. On aurait plus de, voilà, on aurait plus d'un quart de la population qui serait vraiment dans la très, très grande pauvreté. Donc, ce système social, il faut le chérir. Parce que c'est ce qui fait qu'on est une société évoluée et progressiste.
Donc il faut le chérir, il faut que ceux qui ont droit à des aides n'aient pas honte de pouvoir les solliciter. Et il faut aussi quand même lutter contre les abus, que ce soit la fraude fiscale qui se chiffre à plusieurs milliards ou la fraude sociale, parce que c'est notre système à tous, donc il faut le préserver. Merci Nicolas Framont, à bientôt.
Merci à vous,
à bientôt. Au revoir. Petite pause à nouveau. Il faut vivre quand on est une radio comme Beurre FM. Vous êtes nombreux à nous écouter. Donc, pause musicale pour les uns, pause pub pour les autres. Pause. À tout à l'heure.
Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
On poursuit notre débat sur la valeur travail. Peut-on vivre dignement de son travail aujourd'hui dans notre société? C'est une question que tout le monde se pose. Et je crois que les politiques ont un devoir, c'est d'y répondre. Par contre, le compte n'y est pas toujours, parce que quand on se lève le matin, qu'on gagne 1 350 € par mois, qui est le SMIG aujourd'hui dans notre pays, ben on a le droit de se poser des questions. Avec les prix des logements, les prix des produits essentiels dans les grandes surfaces, le prix de l'énergie, tous les prix ont augmenté. Donc ça veut dire que le train de vie des Français, il est dur. On est quasiment au 15 du mois pour beaucoup, et je veux dire même le 10 du mois à découvert. Les Français ne peuvent même plus s'offrir de restaurant. 50% de nos compatriotes ne partent pas en vacances. C'est un chiffre énorme. Or, on ne travaille pas simplement pour remplir le frigo ou pour se chauffer. Je suppose quand même qu'une société digne de ce nom doit aussi permettre aux uns aux autres de se faire plaisir, d'aspirer aussi à des petits bonheurs ou même à atteindre ses rêves, voyager, sortir, aller au théâtre, au cinéma. Mais c'est de plus en plus difficile, c'est une réalité. Alors on a Karima qui est psychologue et qui travaille sur les évolutions de la société avec les aléas de la vie que nous traversons tous. Et il y en a un d'aléa qui nous a frappé, c'est la Covid. La Covid, pendant plus de 2 ans, elle a mis beaucoup, énormément d'entreprises à l'arrêt, avec le télétravail, avec le chômage partiel, avec les aides qui permettaient, notamment au domaine et au milieu de la restauration, de rester fermé, mais de pouvoir tenir la tête sortie de l'eau. Karima, bonjour.
Bonjour Karim, bonjour à nos auditeurs et auditrices.
Merci. On est heureux de vous avoir en ligne parce qu'il y a une question que l'on se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, quand on sent qu'il y a énormément de difficultés à se remettre en mouvement pour une grande partie de nos compatriotes, certains travaillaient avant la Covid et ont du mal à se remettre en mouvement, est-ce que cette crise sanitaire, est-ce que cette épidémie qui est passée par là, qui a fait que le chômage partiel a permis, et heureusement, à certains de rester à la maison et d'être payés, est-ce que ça ne pénalise pas la valeur travail? Est-ce qu'on a perdu le sens qui permettait de se dire « je me lève le matin, je vais chercher mon salaire ». Les anciennes générations ne se posaient pas de questions. On a l'impression que les nouvelles, elles s'en posent beaucoup.
Oui, absolument. Et puis je vais commencer, si vous me permettez, Karine, avec une citation de Madame Simone Veil, et qui disait « il faut faire en sorte que pour chacun, son propre travail soit un objet de contemplation ». Et en fait, avec c'est la beau, crise, c'est une citation magnifique, je trouve, et qui nous donne, en fait, qui s'inscrit dans ce que c'est qu'une valeur, un principe pour soi, un principe aussi pour les autres, un principe social. Le travail, il y a beaucoup de philosophes qui ont écrit dessus depuis la nuit des temps et qui continuent encore à écrire là-dessus sur l'importance de travailler et l'importance, ce que cela apporte, en fait, que la valeur travail nous ouvre sur d'autres valeurs fondamentales telles que la liberté. Et la crise, vous l'avez dit, Karim, de la Covid, la crise sanitaire, nous a obligés en fait à revenir et à nous replier sur nous-mêmes et à revenir sur des choses qui nous semblaient être acquises, des choses qui nous semblaient aller être de soi et qui allaient de soi, mais qui finalement, il a fallu les réinterroger, les réétudier et faire une introspection. Beaucoup de personnes, après ou pendant même le confinement, pendant la crise, même après, là, on est, si on peut dire, post-Covid, et encore, il y a d'autres crises qui sont là tout autour de nous et qui nous font peur, la guerre, la peur de manquer, et qui nous mettent, en fait, qui nous amènent à nous replier sur nos peurs et qui deviennent des peurs un peu irrationnelles.
Comment on fait pour combattre ces phénomènes, Karima?
Alors, pour les combattre, déjà, il faut, ça s'inscrit dans ma démarche, déjà un principe, déjà les reconnaître, en prendre conscience. Je vous écoutais depuis tout à l'heure avec vos différents invités qui parlaient de notre système social, qui parlaient de... C'est vrai qu'on a beaucoup d'acquis et beaucoup de choses, mais des choses ont besoin d'être réévaluées et revues. La plupart des personnes, quand elles prennent conscience que le travail dans lequel elles sont engagées pendant plusieurs années, ce n'est plus comme nos parents, vous l'avez dit, ou comme nos grands-parents, où le travail est à vie. C'est-à-dire, ils vont à l'école, ils vont pour apprendre un métier, ils sortent de là après avoir fait des études ou pas, ou après avoir fait un stage, une formation, se retrouvent à travailler et restent toute leur vie dans ce travail. L'impermanence, en fait, de ce que nous vivons,
le fait que notre société bouge tout le temps et ça va très très vite, ça va très très vite, nous oblige en fait à reconsidérer nos prises de position.
Mais Karima, il y a une question quand même qui mérite d'être posée. On ne pourra pas le faire là parce qu'on arrive en fin d'émission. Cette émission, elle passe trop vite. On le dit toutes les semaines. Il va falloir que la rédaction nous donne une demi-heure ou une heure de plus. Hein. On va le dire à la présidente de Beurre FM. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une société où on revendique essentiellement et uniquement des droits ? Est-ce qu'on n'en a pas oublié la question des devoirs ? Cet équilibre fondamental, droit et devoir.
Mais ça, c'est, on l'a dit, vous vous souvenez, la dernière fois, j'étais intervenue sur l'autorité. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est, on demande, on est en position d'attente et de vouloir recevoir parce qu'on estime que soit ça nous est dû. Vous savez, dans un schéma cognitif de tout m'est dû. Donc, puisque de toute façon, si je souffre ou si je ne souffre pas, c'est difficile, c'est pas difficile. Donc, on se retrouve là-dedans. Mais attention, ce n'est pas uniquement ça. Il n'y a qu'une. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu observer dans mon travail de terrain.
Il faut conclure, Karima, là.
Aussi. Comment ?
Il faut conclure, là. Vous avez 20 secondes.
D'accord. Oh là là. Alors, ça va être difficile en 20 secondes.
Non, mais ce que je vous propose, c'est. Il faut que vous veniez sur le plateau avec nous. Il faut qu'on aborde ces questions en profondeur. C'est des questions sérieuses et, à mon avis, on n'a pas fini de les traiter. Ce n'est que le commencement.
Non, on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini de les traiter parce que il y a des changements. Notre société, elle évolue. Il y a des changements. On n'a plus les mêmes inspirations. Les gens, quand ils prennent un travail, une valeur, c'est quoi? Une valeur,
exactement. C'est une motivation. On n'a plus les mêmes aspirations. On abordera au cours d'une future émission les aspirations de cette nouvelle génération qu'on appelle YZ. Donc, il faudra qu'on en parle. Comment les jeunes réagissent aujourd'hui vis-à-vis du travail? Merci, Karima. Karima, on est obligé de prendre la personnalité de la semaine. Vous savez qu'on a une rubrique qui met en avant à la fin de nos émissions une personnalité issue de la diversité, issue de l'immigration. Vous le dites comme vous voulez. Mais en tout cas, une personnalité qui a réussi, qui avance dans la société française, qui est utile au pays. On en parle peu de ces femmes et ces hommes. On parle que des trains qui arrivent en retard. On a envie de parler des trains qui arrivent à l'heure, nous aussi. Les Mohamed, les Fatima, ça sert aussi la société française. Ça n'est pas simplement la délinquance et l'immigration illégale, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Je dis à bientôt à Karima qui sera sur les ondes de Beurre FM pour évoquer ces sujets. Et je donne la parole à Fodil, évidemment, pour présenter la personnalité de la semaine.
Eh bien, pour notre personnalité de la semaine, je vous emmène cette fois-ci dans l'Essonne, en région parisienne, pour vous présenter Abdel Farahoui, né à Juvisy au sein d'une famille où les « je t'aime » se comptent par des milliers. Comme tous les petits garçons, Abdel a connu la chaleur d'un foyer entouré par l'amour et la tendresse de ses parents complices qu'il serre dans ses bras d'enfant pour montrer que cette vie qui le fascine est une bénédiction de les avoir à ses côtés. Sourire angélique pour un petit garçon heureux, Abdel apprend les plaisirs de la vie au rythme d'une enfance joyeuse. Il se réjouit de découvrir tant de merveilles sous le regard attendri de ses parents. Il se laisse guider aux portes de l'adolescence par ses parents avec pour devise « croire en ses rêves ». Ses parents le regardent grandir et ses années scolaires vont être illuminées de succès. Il décroche son bac en 2005 en sciences techniques de la gestion à l'âge de 19 ans. Deux ans plus tard, il obtient un BTS de management des unités commerciales. Suite à ça, il décroche un contrat d'apprentissage pour intégrer le Conservatoire national des arts et des métiers et obtient un Master 1 en marketing qui lui ouvre les portes du monde professionnel puisqu'il sera promu adjoint d'une agence de location de véhicules américaine fondée en 1918 à Chicago. Quatre ans plus tard, il part au Havre pour suivre une formation de 6 mois afin de devenir directeur d'agence. Il revient un an plus tard en Île-de-France pour gérer l'agence de location de Massy et celle à proximité de l'enceinte du Parc des Princes. Un parcours atypique qui, par le travail, lui a permis depuis presque 2 ans de gérer 5 agences de location en région parisienne. Pour conclure ce portrait, mon cher Karim, j'ai choisi d'emprunter une citation à un homme politique écossais, Walter Elliott, qui résume bien le parcours d'Abdel. Je le cite, « La persévérance n'est pas une longue course, c'est plusieurs courses brèves, l'une après l'autre. » Après plusieurs courses, Abdel a fini par réaliser son rêve et d'être la fierté de ses parents qui sont à l'écoute, mon cher Karim.
Bonjour Abdel Farahoui.
Bonjour Karim Yaribi.
Bon, vous êtes heureux d'entendre ce portrait qui est dressé de vous. Un enfant d'immigré qui réussit, qui fait son chemin, donc qui avance dans la vie, qui est utile à l'économie, à la société française. On parle peu de ces Abdel-là. Hein. Donc on a voulu vous mettre à l'honneur aujourd'hui.
Ben, je suis très flatté. Je tenais à vous remercier. Je suis très très touché pour l'invitation et pour le portrait que vous avez fait de moi. Et d'avoir l'occasion aussi de pouvoir me présenter et présenter un peu mon parcours pour effectivement donner un peu
d'espoir, de joie aussi, parce qu'effectivement, on montre qu'une certaine facette de des gens issus de l'immigration. Effectivement, il y a du monde qui bosse. Il y a du monde qui bosse.
Et vous êtes beaucoup plus nombreux à bosser, à réussir, qu'à être sur le bord du chemin. Et ça, on le dit jamais. Abdel, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour percer dans votre vie professionnelle? Si oui, quelles sont les difficultés majeures que vous avez pu rencontrer et que vous avez donc dépassées?
Au tout début de ma carrière, Karim, c'était pas forcément évident parce que un nom à connotation maghrébine, forcément, ça séduit pas tout de suite. Mais je me suis pas arrêté à ça. Je me suis pas arrêté à ça. Pourquoi ? Parce que je sais que par rapport à l'éducation que j'ai reçue de mes parents, leur engagement, le sacrifice qu'ils ont fait de venir s'installer en France pour tout quitter, leur famille, leurs frères et sœurs, ils nous ont vraiment inculqué, mes sœurs et moi, cette valeur de travail et cette valeur de respect vis-à-vis de l'autre. De ne pas pleurer sur son sort, mais de toujours en faire deux fois plus, trois fois plus, quatre fois plus. C'est pas facile, mais on va y arriver. Et j'ai toujours baigné dans cet optimisme, et c'est ce qui nous permet, enfin c'est ce qui me permet d'avancer au quotidien. C'est mon carburant, c'est vraiment mon moteur pour avancer. Et ça pour ça je les en remercie infiniment.
Les parents, l'éducation, c'est sacré, on oublie de le dire, c'est fondamental ce que vous êtes en train de dire. Ne pas se victimiser, ne pas faire preuve de misérabilisme, avancer, le travail, toujours le travail, encore le travail, la persévérance. Quand vous êtes aujourd'hui en fonction comme vous l'êtes et en responsabilité, vous donnez la chance, je suppose, à des jeunes pour des stages ou des contrats de qualification ou même pour des emplois, des jeunes qui peut-être ont des portes fermées ailleurs.
Absolument. Là, c'était le cas notamment d'un... Là, j'ai accueilli un jeune parce que moi, tous les ans, j'accueille un jeune en stage ou en apprentissage pour une durée de 2 ans. Et moi, mon plaisir, vraiment, ma fierté, c'est de pouvoir faire grandir ce jeune homme ou cette jeune femme en lui transmettant ses valeurs.
Magnifique.
Vraiment, j'ai cette image du relais, vous savez, du relais 4 fois 100 mètres avec le témoin. Voilà.
On passe le relais, Abdel. Exactement. Magnifique, magnifique ce que vous nous dites, ce que vous nous transmettez. Et vous entendez cette musique des engagés, ce générique des engagés qui augure de ce qui va se passer dimanche soir au Parc des Princes, le classico PSG-OM. Donc, je vous le dis, l'Olympique de Marseille risque de faire quelque chose qui va vous faire pleurer, les Parisiens. À la semaine prochaine.
Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.